Vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Alors pour cette dernière émission avant l'été, j'avais marqué on accueille Stéphane, sauf que Stéphane est coincé à l'aéroport, donc on n'accueille pas Stéphane pour le moment. Par contre, on a Philippe. Bonjour Philippe.
Bonsoir.
Thalie ne reviendra qu'au mois de septembre. Bonjour Thalie, si tu nous écoutes. Par contre, une nouvelle voix se joint à nous. Bonjour Maxime Jeune.
Bonsoir.
Maxime Jeune est un auteur assez discret qui se joint à nous pour causer bande dessinée et fanzina, tout ça. Bienvenue. Alors, en parlant bande dessinée, ce soir, on parlera de l'Arabe du futur, si jamais Stéphane nous rejoint un temps, de Riyad Satouf à l'occasion de la sortie du deuxième tome. Pardon. On parlera de Mattia Gelberg pour son Sylvia Regina à l'assaut. Et puis, on fera un tour du côté de la Chine avec Le Beau et Curieux au pays du cerf blanc, de Shen Zhongxi. À ton avis, on dit ça comment, Maxime ?
Je pense que tu fais très bien, je sais pas trop.
On continuera avec les noms d'auteurs imprononçables, puisqu'on parlera de Kon Yoon-deuk, auteur coréen, que je dis peut-être mal, je ne sais pas, édité pour la première fois en français chez Atrabile avec le recueil « Des filles de ma connaissance ». Ma vie en slash, la rubrique de notre ami Nicolas Verstappen, clôture sa réflexion sur le trauma et la bande dessinée. Et Maxime nous parlera de quelques récits en ligne sur grand papier. Pour terminer, on vous diffusera la dernière interview, que nous avons faite à Angoulême. Il s'agit de Claire Brault, une auteure qu'on aime beaucoup ici et dont on a chroniqué les deux bandes dessinées parues à l'assaut, Mambo en 2012, Alma en 2014. Et c'est Jean qui nous le présentera, cette interview. Alors, on va commencer avec toi, Philippe.
Mais oui. Alors, Sylvia Regina, donc Mattia Gelberg, publié à l'Association. Sylvia Regina se présente comme une bonne brique carrée et imposante d'un peu plus de 216 pages, ai-je lu. Alors, qui est Mattia Gelberg ? Mattia Gelberg est né à Kirkkonummi, en Finlande, en 1964. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui 51 ans. On vous parle parfois, enfin même souvent, peut-être d'auteurs jeunes, prometteurs ici. C'est plutôt un vieux de la vieille, presque. Alors, diplômé en graphisme de l'École des arts décoratifs d'Helsinki, il a démarré sa carrière professionnelle en 1992 avec un fanzine autopublié qui s'intitulait BEM. Alors, son travail va rapidement trouver un écho aux États-Unis, mais surtout en Europe. Et son attirance première pour les supports non conventionnels va le mener tout droit d'abord à publier chez des éditeurs comme Chacal Puant ou Le Dernier Cri. En 2014, il a publié aussi un bouquin chez Diuchi Kuchi qui s'appelle « Le 14e jour du mois », qui est un très beau livre-objet qui regroupe deux histoires assez fortes, assez costaudes. Et il faut signaler aussi que le DMPP 7, donc le DMPP 7, contient une large étude de son travail, pour ceux que ça intéresserait. Mais après sa participation très remarquée dans le Comics 2000, son principal éditeur, sous l'impulsion de Jean-Christophe Menu, va devenir l'Association, où il va publier la plupart de ses bouquins, notamment Le Sultan de Vénus et autres moelles d'invertébrés, Hard West. Il va participer à l'aventure de l'Association en Inde, à ce collectif. Et puis, il va surtout faire la trilogie. On va parler de la dernière partie aujourd'hui, mais donc la trilogie composée de Holmenkollen, Kekkonen, et donc aujourd'hui de Sylvia Regina. Sylvia Regina qui a déjà été fait en 2010. Après le temps de la traduction, etc. Donc, il sort chez nous à l'Association aujourd'hui. Alors, il est toujours très actif, hein, Mattia Gelberg. Depuis 2012, il a lancé un nouveau fanzine qui suit un peu BEM, qui s'enchaîne et qui s'appelle Laximosis. C'est un fanzine mensuel et qui est accessible déjà pour l'instant par abonnement, avec une traduction en anglais incluse. Donc là aussi, pour les gens que ça intéresserait, c'est tout à fait a priori compréhensible. Et le recueil de tous ces fanzines devrait paraître apparemment sous la forme d'un livre unique de 1000 pages. Affaire à suivre. Alors depuis 1998, Mattia Gelberg enseigne aussi la bande dessinée à l'Université de l'Art et du Design d'Helsinki, où il habite. Par ailleurs, voilà, ça c'est pour la petite biographie. Alors on a l'habitude de parler des bouquins en pitchant d'abord les bouquins et puis en avançant comme ça, en parlant d'autres choses. Je vais un peu prendre le contre-pied et je vais d'abord parler du style graphique de Mattia Gelberg. Car c'est un style graphique, enfin moi j'ai souvent été attiré par ces bouquins, sans jamais nécessairement avoir été convaincu plus par les récits. Et c'est d'autant plus important d'en parler, je pense, de commencer par là, parce que c'est vraiment un graphisme plus que déroutant et reconnaissable entre mille. Quand on a un bouquin de Matti Hagelberg en main, on le reconnaît tout de suite. Alors, hormis dans Art West, qui est un plus petit bouquin à l'association, où là, il va travailler au pinceau, en fait, la technique de Matti Hagelberg reste toujours la même dans ses bouquins, sauf que j'ai vraiment l'impression qu'il l'a perfectionné, enfin qu'il a vraiment améliorer la maîtrise de ces techniques. Et donc, c'est la technique de la carte à gratter, tout simplement, qui est devenue chez lui, j'ai l'impression, de plus en plus virtuose et de plus en plus minutieuse. Et qui, on le voit tout de suite, il y a ce gros jeu, ce gros contraste entre le noir et le blanc, qui fait évidemment tout de suite penser à la gravure. Et la deuxième chose qu'on constate, je pense, quand on regarde son dessin un peu plus en détail, c'est le jeu sur les volumes. Il y a vraiment des personnages comme ça ou des décors qui ont vraiment un volume assez, assez incroyable, assez fou. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il a vraiment développé au fur et à mesure de ses différents bouquins. Et Matti Hagelberg, en fait, ses travails, j'ai l'impression, ça semble assez évident, travaille chaque planche comme s'il s'agissait d'un tableau à part entière, pardon. Et dans lesquels on retrouve une forme de tension, des oppositions, mais qui se fondent l'un dans l'autre pour créer le style qui est le sien aujourd'hui. Alors, notamment, a priori comme ça, c'est un graphisme finalement assez rigide, assez géométrique, millimétré, tout a l'air d'être méga à sa place, que rien ne peut bouger. Et en même temps, quand on regarde les pages plus en détail, on se rend compte qu'il y a comme un plus de folie. Il y a notamment un esprit cartoonesque comme ça dans la manière dont les personnages s'expriment, leur visage, etc. Il y a quelque chose de plus fou qui bouge et qui vient un peu contrebalancer ce côté comme ça très rigide.
Ce que tu peux peut-être juste dire, c'est que c'est pas réaliste, quoi. Il y a de l'ornement et c'est assez composé. On n'est pas du tout dans un... Tu parles de carte à gratter, on est très très éloigné du boulot d'un Thomas Ott ou quelque chose comme ça. C'est...
Ça, c'est plus l'aspect cartoon. C'est très stylisé, ouais. L'aspect cartoon des personnages qui, on voit bien, ce sont des êtres humains où on s'est identifié des chiens, mais en effet, il y a un côté cartoon qui leur est donné, et en effet, on est assez loin de la réalité, tout à fait. Tout à fait. Et c'est la même chose au niveau de... au niveau du découpage, où on peut passer de choses... d'une chose à l'autre, comme ça, de choses très différentes. Il y a parfois des pleines pages, avec un découpage relativement statique comme ça, c'est juste une grande case. Et puis sur la page suivante, on peut avoir un découpage qui, lui, est beaucoup plus labyrinthique, beaucoup plus difficile à suivre, avec une multiplicité de cases comme ça qui s'enchaînent. Et voilà. Et quand on a tout ça qui se crée, tout ça se fond, tout ça a l'air opposé, et en fait, tout ça se mêle dans son style, qui pour moi est totalement inimitable. Et tout ça, donc toute cette liberté graphique, se fait toujours dans des pages, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient, comme je disais, plus labyrinthiques au niveau du découpage, dans des pages qui sont toujours hyper foisonnantes, pétries de détails, et dans lesquelles, en fait, on peut se perdre vraiment, vraiment longtemps, quoi. Alors, pour moi, ce style graphique comme ça a un effet assez double. C'est que la narration, la manière dont il raconte les histoires, ne ressemble pas à beaucoup de choses qui existent. Il y a un côté finalement assez, assez chaotique, assez chancelant. C'est peut-être justement ce qui, moi, m'a un peu effrayé les premières fois que j'ai lu du Matti Hagelberg. C'est que j'ai l'impression qu'il faut être un peu prêt pour ce genre de bouquin. Pas comme si ça s'adressait à des élus ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut nous échapper à certains moments, et puis il y a d'autres moments où on va tout capter. C'est ce que moi j'ai un peu eu sur ce Sylvia Regina, et parce qu'on avance comme ça dans ces pages, on regarde tous ces dessins, on est à la fois assez admiratif, mais on est aussi un peu égaré, comme je le disais là tantôt, on est un peu hébété. Et il faut accepter comme ça de se laisser emporter dans un monde qui a l'air toujours de bouger, où on n'est pas toujours sûr de bien comprendre exactement ce qu'il veut nous montrer. Donc ce côté comme ça, narratif, assez, assez chaotique, assez, assez étrange. Et alors le second effet du style graphique qu'il va utiliser, de cette carte à gratter, de tous ces jeux sur les volumes, c'est un côté assez froid. Le Mathias Gueulbert, pour rentrer dedans, ben, c'est pas évident, quoi. Y a en plus une voix off qui est quasi permanente, qui enlève comme ça un peu une partie des émotions. Et on a, comme ça, dans ces bouquins, j'ai l'impression, une sorte d'atmosphère un peu ambiguë. On sent qu'il y a de l'humour, on aimerait rire de plein de choses, et en même temps, on n'y arrive pas vraiment. On ressent de l'empathie pour les personnages, il y a des émotions qui passent. Et en même temps, il souffle comme ça en permanence un air glacé dans ses pages, comme ça. Donc tout est là, tout est présent, mais comme d'autres auteurs, on citera peut-être plus tard, mais comme Turunen, par exemple, les émotions sont toujours comme ça maintenues à distance par des situations absurdes, par un humour détaché. Et tout, ça crée, ses choix graphiques créent cet aspect-là, qui fait que je pense que ça renforce la difficulté de rentrer dans un de ses bouquins. Alors ça, c'est pour parler un peu de la forme. Alors forcément, enfin, le contenu est assez en adéquation avec cette forme surréaliste, hein. Ces histoires dégagent le même parfum d'étrangeté. Et Mathias Gueulbert, en fait, ancre pas mal ces histoires dans des faits réels. Le précédent ouvrage de la trilogie, Kekkonen, était une sorte de biographie, un peu comme ça, d'un des présidents de la Finlande. Mais en même temps, cette réalité, il l'a fait entrer en collision avec beaucoup d'éléments grotesques ou même surnaturels. Et alors, il utilise aussi beaucoup de références culturelles, alors soit populaires, soit beaucoup plus classiques, mais qui vont rajouter comme ça un côté onirique étonnant. Donc même si la réalité semble être la base première de ces récits, il va faire rentrer beaucoup d'autres éléments en collision avec cette réalité. Et Sylvia Regina, donc l'album dont on parle aujourd'hui, n'échappe pas à cette logique. C'est un bouquin dans lequel l'auteur va dresser un portrait lugubre et plus que féroce de la société finlandaise qui, comme d'autres sociétés contemporaines en Europe aujourd'hui, est ravagée par le néolibéralisme. Alors, moi, j'ai commencé ce bouquin, il y a une 4-5 pages, un peu d'intro, et puis on arrive assez vite dans Pauvre Jean, qui est l'adaptation d'un roman, qui n'est pas donc a fortiori un récit d'Hagelberg, et pourtant, ça ressemble tellement à ce qu'il ferait d'habitude. Pour moi, ce pauvre Jean a vraiment été une vraie claque. C'est donc le récit, en une cinquantaine de pages, de la chute implacable d'une famille dans la pauvreté la plus totale. La perte d'un emploi, le manque de nourriture ou de médicaments, la mort d'un enfant, l'asile pour la femme, etc. Une situation complètement désespérée qui semble d'une autre époque, d'un autre siècle, d'un autre âge. Mais en fait, Hagelberg lui donne un écho qui est tout à fait actuel et avec une force que moi, je trouve incroyable. Et rien que pour ces 50 pages-là, moi, j'aurais pu m'arrêter là. Rien que pour ces 50 pages-là, je trouve que ce Sylvia Regina, c'est une véritable claque dans la gueule. Il y a d'autres histoires qui sont la plupart plus courtes, tout aussi sombres. Celle d'un présentateur de TV célèbre qui abuse sexuellement d'un SDF. Allons-y. Ou celle d'une Miss Beauté qui, une fois qu'elle a gagné son concours, ne cherche qu'une seule chose, c'est sans les dire. Donc il y a comme ça toute une série d'histoires assez sombres, mais vraiment Pauvre Jean là, qui ouvre ce bouquin est d'une force assez incroyable. Mais comme je le disais au début, à côté de ce côté réel comme ça, ce côté sombre qu'on a chez Hagelberg, on a aussi un côté beaucoup plus loufoque, beaucoup plus farfelu, avec d'autres éléments plus grotesques. Et donc, on a aussi donc, d'autres récits qui sont plus foufous, comme Blanche-Neige et les Sept Samouraïs, qui est juste un récit en une page. Et celui que j'aime beaucoup, c'est Programme Spatial, qui parle de trois astronautes dont la navette n'a jamais été mise en orbite pour cause de coupes budgétaires. Et donc, cette navette a été transportée au bord d'un lac, en plein centre du pays. Et voilà, les personnages continuent à vivre dans cette navette sans jamais pouvoir quitter la Terre. C'est assez surprenant et c'est assez drôle comme récit. Et le fait comme ça qu'il y ait deux tonalités, mais qui en fait se mêlent en permanence. Mais en fait, tout ça se mêle finalement au service d'une thématique qui traverse, elle, vraiment tout le bouquin et toutes ses histoires. C'est vraiment, comme je le disais au début, je parlais de néolibéralisme par rapport à la thématique, c'est la faillite de l'État et de la capitulation des gens, parce qu'il n'épargne vraiment personne. Hein. Engelberg, il n'épargne pas plus les pauvres que les riches. Et vraiment la capitulation des gens devant le glorieux Christ du néolibéralisme, qui est une sorte de monstre un peu abject qu'on retrouve plusieurs fois dans le bouquin. Et il y a une image assez forte. On est à la fin d'une histoire, l'État-providence qui apparaît pendu aux portes de la ville. Et quand on voit cette image, on a compris que vraiment dans ce Sylvia Regina, plus aucun espoir n'est réellement permis. Alors la plupart de ces personnages, donc de ces histoires plus ou moins courtes, plus ou moins longues, vont se croiser et surtout vont se retrouver dans un final. Mathieu Engelberg met le fameux Sylvia Regina en scène. Alors le Sylvia Regina, c'est un bateau de croisière qui fut un temps le fleuron de l'industrie nautique nationale. C'est le porte-drapeau un peu de la prospérité du pays, comme ça, dans les années 70. Et c'est un symbole que finalement Mathieu Engelberg va vouer au naufrage, car pour lui, comme il l'explique dans ce bouquin, la Finlande, ce beau pays comme ça dont il chante un peu la beauté, a changé depuis longtemps le bleu roi et le blanc immaculé de son drapeau au profit d'un marron caca et d'un jaune pisse. Et l'histoire se termine par la décapitation du premier ministre Matti Hyttinen. Mais on n'est pas sûr du tout que même cette décapitation du chef de l'État ne vienne changer un peu l'ordre de ces jours finlandais qui, comme il le dit lui-même, sont tout à fait ordinaires et se succèdent sans que rien ne bouge. Et voilà, donc comme je le disais, Mathieu Engelberg, c'est un auteur dont j'entends parler depuis longtemps. J'étais un peu passé à côté de son œuvre. Et donc pour moi, je voulais vraiment parler de ce bouquin parce que le Sylvia Regina, c'est vraiment une sorte d'épiphanie, d'énormes découvertes. Que ce soit la magnificence de son graphisme, j'utilise bien ces termes-là, l'originalité de son univers, la virulence de son propos ou son humour iconoclaste et glaçant. En fait, il y a plein de portes d'entrée comme ça, plein d'accroches, plein de points d'accroche pour pénétrer dans son monde qui reste malgré tout marginal. Mais peu importe le chemin qu'on emprunte, j'ai toujours l'impression qu'on se retrouve en fait en présence d'un très grand auteur de bande dessinée et qui nous évoque directement d'autres univers, d'autres auteurs scandinaves dont on a déjà pu parler ici dans l'émission aussi, que ce soit Joakim Pirinen, on avait parlé du couple mort et de ses amis, mais Apo Rapi aussi, qui est finlandais, et puis Marko Turunen, dont on avait déjà parlé aussi.
Moi, je te rejoins sur le côté découverte. C'est un peu à travers ce livre-là que je me suis vraiment plongée dans des récits, parce que le côté, le boulot graphique de Mathieu Engelberg est tellement puissant que c'est vrai que tu peux très vite l'identifier et admirer en fait son travail graphique sans rentrer dans un récit. Et là, en fait, l'association des deux est hyper puissante. Tu parlais de loufoque, c'est vrai qu'il y a il prend vraiment vachement de liberté dans la manière dont il met, dans le lien qu'il y a entre le texte et les images. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression de... Ça reste connecté, mais il y a une liberté qui est tellement forte dans la manière dont il met en scène graphiquement son récit. Et puis, tu parlais de Marko Turunen. Je trouve qu'il y a une parenté dans la manière de nous envoyer à la gueule des trucs quand même assez poignants, finalement. La fin du bouquin, elle est terrible. Il revient sur le deuil qui est mis en scène au début dans cette famille pauvre. Et c'est, tous les récits, il y en a certains qui ont l'air loufoques. Il y a même un côté hyper désinvolte ou irrévérencieux, mais... Il jongle entre ça et ça parle de caca et de trucs comme ça. Et puis en même temps, il y a un moment, il y a un personnage qui va verser une larme. Et cette larme-là, elle est énorme et ça vient ponctuer le livre. Et donc, c'est... Voilà, immense respect pour ce livre et pour cet auteur-là. Je trouve que c'est vraiment... Je sais pas, Maxime, si tu...
Je ne l'ai pas assez lu pour beaucoup en parler, mais... Oui, il y a quelques... Moi, j'ai lu surtout des histoires très courtes. Et j'en ai vu, entre autres, une à la fin qui m'a fait penser à... un peu à une nouvelle de Kafka, comme ça, avec un... C'est, je crois, le ministre qui arrive et qui se fait couper la tête. Et elle est super... La chose qui le choque dans cette histoire, c'est qu'à la fin, le panier heurte sa tête et il trouve que c'est une sensation très désagréable. Ça m'a fait rire et je trouvais que c'était Après, il y a eu d'autres petites histoires comme ça qui m'ont plu, mais c'est vrai que déjà, je connaissais pas du tout et le graphisme est un peu dur quand même de rentrer dedans au début, parce qu'il y a énormément d'informations par page, les compositions sont très baroques et tout ça, et très décoratives aussi. Donc, il y a un peu de temps pour rentrer dans l'univers, mais c'est vrai que ça a l'air, comme vous dites, quoi, touchant, beau, original, un bon livre, quoi.
Des fois, on se demande un peu quand même qu'est-ce qu'il prend pour travailler. Parce que... Il y a quand même une distance entre le texte et l'image qui est parfois hallucinante. Mais voilà. C'est... Ouais, non, non, mais c'est vraiment un super bouquin pour l'assaut. Alors, on va continuer avec un autre boulot très, très dense, puisqu'on va parler de Au pays du cerf-blanc avec toi, Maxime.
Oui. Alors, ben, Au pays du cerf-blanc, c'est un livre qui a été édité par les éditions de la Cerise. Donc c'est une maison d'édition, si je ne me trompe pas, elle est à Bordeaux, en France. Et donc c'est la traduction d'une bande dessinée chinoise, qui est elle-même l'adaptation d'un roman. Donc l'auteur du roman, c'est Shen Zongxi, si je ne prononce pas trop mal. Et le dessinateur, c'est Li Ziwu. Et en fait, c'est un livre qui est au format horizontal, assez épais, il y a quelque chose comme 460 pages. Il est cartonné. Sur la couverture, elle est très belle. Il y a une petite dorure cuivre qui est un peu la marque de fabrique des éditions de la Cerise. Et donc, c'est un livre comme ça qui fait un peu comme les livres bien reliés, assez classiques du 19e siècle. Et ça peut paraître assez étonnant parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'adaptation d'un Lian Huan Hua. Et donc, bon, alors là, je prononce sans doute très mal, mais c'est. Ce sont des petites bandes dessinées traditionnelles japonaises qui sont des tout petits livres, un peu comme en fait, l'équivalent qu'on pourrait avoir ici en Europe, ce serait les fanzines. Mm-hmm. C'est des livres qui sont imprimés vraiment à bas prix, sur du papier de mauvaise qualité, avec en noir et blanc. Et donc la caractéristique de ces livres, c'est qu'il n'y a qu'une seule image par page, avec à chaque fois un texte sous l'image ou à côté, quand c'est dans la version chinoise. Donc, Au pays du cerf-blanc est fait sur ce modèle-là. Et il y a dans chaque page une grande case et un texte en dessous. Et donc je disais que la différence avec ce livre qui est un petit peu bourgeois, bon, on peut quand même carrément dire qu'il est. Ça pourrait être un objet bourgeois.
Et en bande dessinée, maintenant, la tendance est plutôt à l'objet bourgeois. Hein.
C'est vrai que
l'objet cartonné.
Exactement. Et donc, c'est une très bonne initiative, en fait, de la part de la Cerise, je pense, de l'avoir édité dans ce format-là. Parce qu'il aurait eu beaucoup de mal à trouver son public s'il avait été édité dans le format d'origine, qui est un petit cahier relié de manière pas chère. Et les Chinois, ils n'ont pas de problème avec cet objet-là parce que c'est une habitude culturelle. Mais pour nous, ce serait un peu. Un peu absurde de proposer ça en librairie, et les gens n'arriveraient sans doute pas à découvrir, alors qu'un beau livre comme ça, un bel objet assez gros qui prend de la place sur l'étal d'un libraire, il y a plus de chances que la rencontre se fasse avec le public francophone. Et donc, mais en fait, j'aimerais parler plus un peu du Lian Huan Hua, donc cette bande dessinée traditionnelle, qui est en fait un peu l'équivalent du pulp, qui est un peu Ah, il y a Stéphane qui vient d'arriver.
Stéphane arrive, telle une tornade dans le studio, voilà.
Magnifique. Bien joué. Bonjour Stéphane. Et donc c'est un peu l'équivalent du pulp aussi. Donc tous les petits pulps, les bandes dessinées de gare qui existaient jusque dans les années 90. Donc bah il y a des titres très connus comme Tex ou en Italie il y a Dylan Dog, ce genre de choses. C'est juste que souvent les pulps sont avec deux cases par page, une case au-dessus, une case en dessous, qui sont aussi au format horizontal. Bah, le Lian Huan Hua, c'est comme si on avait utilisé une seule de ces deux cases. Et il y a souvent l'utilisation d'un texte en voix off, comme là on a dans les adaptations littéraires du Lian Huan Hua. Mais on n'a pas que des adaptations littéraires, il y a aussi des adaptations, par exemple, de films. Il y a des adaptations de Star Wars qui sont faites comme ça. Donc les dessinateurs chinois redessinent les personnages, et donc on voit Dark Vador dessiné un peu à la manière bande dessinée de gare. Il y a aussi des adaptations de bandes dessinées européennes, il y a des adaptations absolument sans droit de copyright de Tintin ou de choses comme ça, qui sont toutes reprises et remises à l'horizontale, en noir et blanc, avec des très beaux équilibres d'ailleurs de vide et de plein. Donc on a les personnages en bas de la case et des grands vides au-dessus avec des très belles bulles au-dessus. Et ces bandes dessinées Lian Huan Hua, elles ont vraiment bercé tous les Chinois, apparemment, depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Et il y en a beaucoup qui ont appris à lire là-dessus, qui ont lu les grands classiques là-dessus. Et maintenant, elles sont un peu désuètes, un peu passées de mode. Et ce qui est vraiment à la mode, c'est le manhua. Donc, en France, on a, en francophonie, on a eu des traductions comme... Il y a eu Benjamin qui a fait quelque chose comme... je ne me rappelle plus du titre. Welcome. Ça vous parle ?
Aux éditions de la Cerise aussi ?
Non, pas à la Cerise. Non, c'est un peu kitsch comme ça. C'est très réaliste. Ça ressemble un peu à un manga. C'est dessiné à l'ordinateur. Ça vous dit rien, Benjamin ? Non, c'est pas grave.
Mais moi, je parle d'un manhwa aussi après.
Ah, c'est vrai ?
Oui.
Ouais, mais c'est un manhwa coréen. Okay, ouais. Du coup. Okay. Donc bah, voilà, c'est un peu ça qui est plus à la mode maintenant, en Chine apparemment.
Bah, qui est un peu l'équivalent de la bande dessinée alternative ici. C'est un peu l'opposition au manga, quoi. C'est. Enfin, en tout cas, en Corée, c'est comme ça que c'est présenté.
En Chine, l'impression que j'avais, c'est que c'était quand même pas très alternatif. Mais donc voilà, ça a un peu rangé le Lian Wanhua comme une vieillerie. Mais au pays du cerf blanc, il nous est présenté par l'éditeur comme quelque chose qui pourrait renouveler le genre, en fait. Parce que je pense que, déjà, c'est l'adaptation d'un roman moderne qui est considéré quasi comme un classique au Japon de la littérature du XXe siècle. Donc, et en fait, bon, on va y venir, l'histoire du livre et l'histoire de la bande dessinée, c'est la chronique d'un village paysan dans une petite province de Chine, à peu près au début du XXe siècle. Et il y a une première rupture qui se passe dans cette vie paisible, qui est en 1911, au moment où l'Empire chinois, il y a une révolution et une république qui s'installe. Ensuite, il y a des périodes très troubles avec des seigneurs de la guerre qui reprennent plus ou moins le pouvoir. Et ensuite, il y a les communistes et les nationalistes qui... Alors ça, c'est l'histoire en général. Il y a un petit résumé de ce contexte historique qui est à la fin du livre fait par les éditeurs. Donc, il y a les nationalistes et les communistes qui s'associent et qui reprennent le pouvoir jusqu'à ce que les nationalistes trahissent les communistes. Bon, c'est Chiang Kai-shek, en fait. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais au lycée. Donc, Chiang Kai-shek a pris le pouvoir. Et ensuite...
Un trou.
Pardon ?
T'as un trou.
Oui. Non, et donc, situons un petit peu ce qui se passe dans l'histoire. En fait, ça ne va pas jusque-là. Là, c'est juste le premier tome. Et donc, ça va à peu près jusqu'au moment où Chiang Kai-shek prend le pouvoir, quoi. Et on imagine que le deuxième tome va nous emmener jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est assez amusant, donc, du coup, c'est que c'est sur une assez longue période de temps et qu'il y a deux générations de personnages qui succèdent. On est d'abord avec les pères. Et je dis pères parce que c'est vraiment une société paternaliste, clanique, où là, le rôle du mâle, comme ça, a une vraie importance. Et ensuite, c'est les fils et les filles. Et comme c'est vraiment le passage de la tradition à la modernité, il y a la fille et son changement de statut, donc, a vraiment un rôle important. Et il y a un personnage qui incarne ça, qui s'appelle Alouette. Et donc, c'est une petite fille qui s'oppose à son père, qui est le chef du clan, et qui veut aller étudier à la ville. Et comme ça, on suit le destin de plusieurs personnages. Et c'est très dense. Et ce qui est assez beau, je trouve, c'est que cette manière de raconter avec une case par page et un récitatif en dessous, ça permet de raconter cette densité d'univers, de personnages et de lignes de narration comme ça. Alors que quand on fait une bande dessinée qui est plus proche des personnages, ça peut être parfois difficile d'en suivre plus de un. Mm-hmm. Souvent, en dramaturgie, on dit qu'il faut un seul personnage et...
Un seul sujet, en tout cas, c'est ça. Mais bon, après, on a bien vu qu'il y a dans les récits contemporains une tentative pour ouvrir ce champ avec le film choral, etc. Ouais. Mais en effet, ce type de récit permet un peu plus de ça, puisqu'il se rapproche plus aussi d'une forme littéraire classique dans laquelle on va vraiment pouvoir suivre une kyrielle de personnages de manière éclatée.
Tu disais, c'est plus une chronique. On n'est pas du tout dans un film choral, enfin dans un récit choral. C'est une chronique d'un lieu, en fait.
Énormément.
Le lieu du cerf blanc, la plaine du cerf blanc.
Voilà, c'est
le pays du cerf blanc. C'est vrai que moi, j'ai commencé à lire... Je me suis fait surprendre par la densité du livre, en fait, parce que tu dis, une image et un peu de texte en dessous, mais en fait, C'est redoutable. En plus, après, tu fais « Ah, c'est le tome 1 !» Waouh !
C'est très elliptique. Mais on va y revenir. J'aimerais parler un peu de l'esthétique après. Bon, parlons-en tout de suite, en fait. C'est très bien. Donc, ouais, oui, du coup, il y a une case par page et les blocs de narration sont très courts. Il y a juste ce texte, cette image. Ça paraît très simple au début comme procédé. Mais en fait, du coup, il y a une rupture à la fin de chaque page. Et ce qui permet d'amener, de digresser en fait assez facilement. On voit au début, il se permet de changer de personnage assez vite.
Ouais, et faut suivre.
On s'imagine que ça va partir assez loin, mais en fait non, ça revient, il recentre assez vite quand même. Moi au début, je pensais que ce serait encore plus dispersé que ça, mais non. La structure est quand même assez solide. Et ce qui est assez chouette aussi avec ce texte en dessous, c'est qu'il porte toute la narration en fait, quasiment. Et l'image est assez libre de faire un peu ce qu'elle veut. Et elle se permet d'être assez redondante en fait. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que elle répète juste ce que le texte dit, mais elle le répète d'une autre manière et elle donne une autre densité en fait à ce qui est dit par le texte. Et en fait, ça me fait penser, il y a le dernier livre d'Olivier Schrauen, qui est Arsène Schrauen, où c'est que du récitatif, comme ça, avec une image en dessous. Et j'ai lu une interview d'Olivier Schrauen sur Du Neuf, où il explique justement que ce procédé lui a permis vraiment de libérer l'image et de parfois se permettre de faire quelque chose qui lui était interdit en cours de dessin ou d'illustration, c'était d'illustrer textuellement, enfin d'illustrer ce que disait le texte, la redondance.
Ouais.
Quelque chose qui paraît pas très élégant, mais en fait ça apporte plein de choses. Et là il y a énormément de densité dans le dessin. En fait la technique de base du Lian Huanhua, c'est la ligne claire. Donc c'est un peu comme Tintin, mais il faut imaginer que c'est des beaucoup plus grandes images, beaucoup plus denses, et qui sont construites aussi avec toute la tradition de la peinture chinoise, qui est de vraiment travailler la composition entre les vides, les pleins, la place du personnage, et énormément de petits détails. Par exemple, on a comme exemple de cette esthétique traditionnelle du Lian Huanhua à la ligne claire, il y a un grand maître qui s'appelle Yuzi, alors là vraiment je pense que je prononce très mal, et qui a édité plusieurs livres à l'an 2, donc, entre autres les métiers du vieux Shanghai et d'autres. Et c'est un travail magnifique. Et il y a une interview de lui aussi sur Du Neuf où il explique que vraiment dans chaque image, tous les petits détails périphériques sur lesquels il ne centre pas l'action, sur lesquels il n'amène pas le focus du regard du lecteur, ce sont eux qui lui permettent d'ajouter des nuances, en fait. De mettre, par exemple, s'il met un chien qui est en train de faire pipi sur un truc dans un coin, ça va être une manière pour lui de souligner l'ironie qu'il a par rapport à ce qui se passe dans la situation centrale. Et il y a vraiment une maîtrise, une virtuosité à diriger le regard avec les jeux de vide et les jeux de plein. C'est aussi très, très présent au pays du cerf-blanc. Et donc, mais là, on n'a pas affaire à une ligne claire. En plus du cerné noir qu'il fait avec un pinceau qui est très sensuel, il amène un petit brossé avec un pinceau, j'imagine, où il y a moins d'encre. Et il donne une texture, une patine à tous les objets, à vraiment tout le décor. C'est très, très dense, il y a beaucoup de noir. Mais il utilise un procédé qui est presque bête et qui nous permet de quand même comprendre quelque chose. Parce qu'en général, quand on dessine une bande dessinée, on ne se permet pas de mettre autant de décors ou de le mettre d'une manière aussi dense parce que, alors on ne comprend plus rien, ça fait une image vraiment trop compliquée. Et lui, il fait un truc très simple, c'est qu'il gomme juste une partie de l'image et c'est assez surprenant au début. On se retrouve avec un bout de décor, un bout de personnage gommé et ça lui permet d'amener vraiment le focus sur ce qu'il veut montrer. Et parfois même, il utilise cette technique-là d'une manière assez surprenante pour vraiment faire des petits effets, des choses assez étonnantes de complexité. Il y a deux pages, je me rappelle, une double page comme ça. Le livre est très calme. En général, les personnages ont une espèce de réserve comme ça, une distance. Et il y a un moment où la mère d'un des personnages principaux lui met une grosse claque. Comme ça. C'est, dans le texte, c'est marqué parce qu'à la fin de la claque, il a du sang dans la bouche. Donc on sait que ça a vraiment été une grosse claque. Et la composition de l'image est assez excellente. À la page de gauche, comme ça, il y a une composition en diagonale qui part du coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit. Donc, il fait monter, en fait, le regard. Et après, en suivant la trajectoire de la claque, il fait redescendre le regard sur une diagonale, coin supérieur gauche, coin inférieur droit. Bon, c'est un peu technique expliqué comme ça. Avec les images, c'est beaucoup plus parlant. Mais du coup, on a vraiment un sentiment de mouvement, alors que tout le reste du livre est très calme et ça amène un contraste assez fort. On sent bien la claque, quoi. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Et il y a cette ligne un peu sensuelle, comme je disais au pinceau, on dirait presque. Il y a des déformations, il n'y a pas vraiment de structure rigide comme une perspective avec un point de fuite ou quelque chose comme ça. Il y a des déformations de tout le décor et c'est plutôt, ça pourrait presque ressembler à de l'expressionnisme, mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça parce qu'il ne me semble pas que ce soit amené par les émotions des personnages. En fait, c'est plutôt juste le geste du pinceau, le geste du poignet comme ça qui est un peu une rotation qui amène que les... Ouais, juste un tabouret peut être très sensuel, être un peu serpentin comme ça, tourner un petit peu. Et il y a une vraie densité dans son coup de pinceau qui fait que on croit vraiment à chaque élément du décor et les objets sont très solides. Et c'est super pour décrire ce monde qui est très rustique, avec que des objets artisanaux, qui est début du XXe siècle.
Oui, il y a aussi une façon d'affirmer aussi ce qui reste blanc, ce qui devient trait. Et c'est très, très assuré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut faire une maison et mettre juste 4 brins d'herbe dans un coin. Et puis, ça s'arrête là. Et tout le reste de la pelouse et le reste du décor sera totalement blanc. Mais on sent que c'est une décision. Ce n'est pas genre, j'en ai marre, j'arrête cette image. Il y a vraiment quelque chose d'assez franc dans la manière de disposer les éléments et d'en ellipser d'autres.
Absolument, oui. Et il y a une chose aussi étonnante, assez étonnante avec le fait que l'image soit libérée de la narration, c'est qu'il se permet au début de faire des... En fait, tous les personnages, enfin toutes les images même, sont vues à peu près à la même distance, qui mettent tous les personnages en pied. Il n'y a jamais de gros plans, par exemple, ou de choses très cinématographiques où on déplacerait la caméra. C'est toujours une caméra un peu vue de dessus, comme ça, pas avec des perspectives très fortes, comme si on était dans un hélicoptère qui survolerait à 10 mètres du sol et qui verrait à travers le toit des maisons. D'ailleurs, il voit à travers le toit des maisons, ce qui fait des choses assez étonnantes, parce qu'on voit la poutre et les piliers devant nous, et qui viennent faire des jeux de recadrage pour encore renforcer le focus qui est fait avec les jeux de plein et de vide. Et il s'amuse à faire des choses assez incroyables avec ça aussi, avec des murs, par exemple, les scènes les plus érotiques. Il y a pas mal de moments où on parle de sexualité de manière assez frontale, comme ça, mais il y a des moments aussi où on voit des femmes nues ou des hommes nus. Mais ce n'est pas les moments les plus érotiques. Dans les moments les vraiment érotiques, comme ça, ils cachent. Et on voit juste deux têtes qui dépassent. Et c'est le texte qui va porter la chose. Et ce sera tout en suggestion et en ellipse, du coup. Et du coup, ce que je disais par rapport aux personnages, c'est qu'ils n'ont pas des silhouettes très marquées. Ils n'ont pas une caractérisation très forte par le dessin. Et ce qui fait qu'au début, on ne les reconnaît pas forcément immédiatement, mais on les reconnaît toujours un peu relativement les uns par rapport aux autres, suivant le contexte, on arrive à se repérer. Il n'y a pas non plus énormément d'ambiguïté à la lecture. Je n'ai pas trouvé, moi. Et on voit aussi à certains moments qu'il arrive à faire une caractérisation magnifique, juste un personnage un peu bancal, de boiteux, comme ça, un général qui arrive. Donc ce n'est pas du tout faute de savoir le faire qu'il ne le fait pas. C'est voulu, je pense. Et ça donne vraiment cette sensation, cette distance avec les personnages, que les personnages sont tout petits. Et aussi la grosse échelle de temps dans laquelle se déroule l'histoire et le fait qu'il y ait plein de personnages, que ce soit une chronique, comme on disait, que presque ce soit le lieu plutôt que les personnages qui soient importants, que les personnages soient dessinés de la même manière que le décor, avec le même trait, un peu le même brossé dessus. Ça donne cette sensation que les personnages sont tout petits, qui ne sont pas très importants. Comme je disais aussi, il y a deux générations, donc on se doute qu'à un moment, ceux de la première génération vont mourir. Et c'est contrairement à d'habitude, où on a l'habitude très confortable de se sentir donner de l'importance par l'identification à un personnage dans une histoire où il a de l'importance. Là, les personnages n'ont pas énormément d'importance et on se dit qu'il ne faut pas trop s'y attacher parce qu'à un moment, ils peuvent disparaître. C'est le sentiment que j'ai eu à la lecture. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez rare en bande dessinée, en fait, et qui est vraiment permis par cette technique d'une page, un récitatif.
C'est vrai, c'est un récit qui est tout à fait particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de chroniquer.
Ça me fait penser au Kamishibai aussi.
Mais moi, je connais moins, donc je ne peux pas approuver ou désapprouver.
Je ne connais pas non plus énormément, mais c'est juste la technique de... Enfin, c'est un espèce de cinéma où il y a une image fixe, quoi, comme un diaporama, et un récitatif dessus. Et je trouve que c'est des techniques vraiment très intéressantes. Et je vois aussi beaucoup dans la scène indépendante, dans le, par exemple, Léon Sadler ou Wallace Crowen, que je disais tout à l'heure, ils utilisent beaucoup cette redondance du texte et de l'image. Et c'est quelque chose qui revient un peu à la mode, j'ai l'impression. ça me paraît intéressant.
Edgar P. Jacob va revenir lui aussi, je sens ça.
Mais Edgar P. Jacob.
Bon, pas en tout avec cas, il faut qu'on, qu'on clôture. Ouais, bon, sûr. En tout cas, ce n'est pas un bouquin qu'on peut lire à l'arraché dans le tram ou je ne sais pas où. C'est un bouquin qui demande d'être disponible, tout comme le Mathieu Engelberg d'ailleurs, en fait. Je trouve que c'est des livres. D'ailleurs, ils sont tellement imposants que de toute façon, tu ne peux pas le glisser dans ta poche. Et ce n'est pas pour rien, je pense que c'est des bouquins qui demandent du temps, d'être bien, d'avoir ses deux mains disponibles, ses deux yeux, sa tête. Voilà,
oui, puis ça la taille pas, des images, la manière dont on décrit, on ne regarde pas ça à la sauvette.
Ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas du
tout. À la sauvette, mais je trouve que dans Le Pays du Cerf-Blanc, il y a un côté feuilletonesque qui permet quand même de lire ça avec plus de légèreté. Et de... Voilà, je trouve...
Ah, il y a des choses très feuilletonesques, oui.
Ok, on va écouter un peu de musique. On va écouter Harrington de Dioniso avec un morceau qui s'appelle Kaaya Baaya. Je mentionne au passage qu'il jouera gratuitement au Théâtre de la Ville le 20 juin à partir de 20h dans une soirée consacrée au label Ukraina. Voilà, on continue. Alors Stéphane va nous parler de L'Arabe du futur de Riyad Satouf en 3 minutes.
En 3 minutes, mais c'était impossible. Alors, je dois bien dire que j'ai lu le premier tome de L'Arabe du futur dans une bagnole, alors que entre mes cours et le moment où j'ai été rechercher mes enfants à l'école, et le livre m'était tombé des mains à l'époque. L'Arabe du futur, c'était vraiment le truc fait pour conforter l'occidental en moi. Oui, les Arabes sont des crétins arriérés, ils vivent dans des dictatures écrasées par des traditions machistes, et les rares d'entre eux qui s'occidentalisent veulent juste être calife à la place du calife. Le titre lui-même est d'une ironie assez cinglante. Alors Satouf, au milieu de tout ça, c'est un enfant qui est beau, blond et intelligent. J'ai refermé le livre au premier tiers. Et à l'époque, la question était « Est-ce que j'en parle à la radio ?» Et la réponse avait été « Non ». Alors avec ses 200 000 exemplaires vendus, Satouf n'a pas vraiment eu besoin de l'émission de radio pour trouver son public et prendre sa place avec Persepolis de Satrapie dans la bibliothèque des lecteurs de bande dessinée dans la section roman graphique. Mais voilà que paraît le deuxième tome de l'Arabe du futur et on peut, bien qu'il s'en vaudra beaucoup, on peut se dire bon, « Ok, il faut toujours être un peu plus curieux que soi-même, c'est une de mes devises » et donc j'ai repris ce bouquin. Alors Satouf s'est rendu incontournable grâce à La vie secrète des jeunes et grâce à Pascal Brutal, qui me paraît, moi, une meilleure œuvre. Il y a aussi Les Beaux Gosses qui lui a valu un César du meilleur film. Donc voilà, c'est un gars, on ne va plus présenter sa bio, je crois qu'il est plus ou moins connu de notre public. Alors il faut bien aussi signaler que L'Arabe du futur fait partie des autobiographies tardives. Le terrain est quand même vachement bien balisé. Quand Justin Green parle de ce qu'il qu'enfant, il voyait son sexe salir la Vierge Marie quand il se baladait en rue, etc. Bon, c'était un peu quelque chose. Quand Spiegelman, Joe Matt, Chester Brand dans les années 90 font de l'autobiographie, il y a, voilà, on est en train de se battre contre le personnage au sens où Tintin, Mickey, Superman étaient des personnages. Ici, on a Satrapi qui a marqué un tournant de l'autobiographie. Une auteure qui commence sous l'influence d'un autre auteur, David B., et qui fait un tabac en librairie avec un petit dessin malhabile, des récits en noir et blanc, etc. D'un seul coup, on a eu quelque chose un peu différent. Et voilà, donc il arrive, ça touffe sur un marché concurrentiel, mais où la niche est devenue un centre commercial. Alors j'ai l'air de critiquer ça, mais en fait je me réjouis tout à fait, probablement plus que David B. lui-même, qu'il y ait de l'autobiographie qu'on puisse trouver sur les étagères. Alors, cela dit, moi, pour moi, L'Arabe du futur n'a pas la force propositionnelle de Pascal Brutal, qui est à mon sens la meilleure œuvre de notre ami Satouf, puisqu'il y a là quelque chose de vraiment qui joue sur l'ambiguïté, sur un mélange de fascination, de tendresse, de violence, et une très très forte intuition, parce que ce gars, on le verra, il a de l'intuition, sur la mobilité des codes culturels contemporains. Et tout ça fait que Pascal Brutal, à mon sens, c'est une vraie œuvre d'art. Alors... Donc il y a quelque chose de suiveur et d'opportuniste qui n'est pas en contradiction avec le personnage de Satouf, mais qui est un peu masqué par la communication officielle autour du livre, qui parle d'un livre compliqué, sur lequel il est revenu plusieurs fois, etc. on ne peut pas nier qu'il y a dans actuellement une curiosité rampante pour le Moyen-Orient. Et on ne peut pas nier qu'on a besoin de passeurs pour nous parler un peu de ce que c'est ce Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est que ces traditions, ces cultures totalement éclatées, complexes, explosives. Et au-delà de l'opportunisme, on peut quand même souligner que Satouf est vraiment un mec qui a de l'intuition et qui est capable de se dire, tiens, l'endroit où je suis, c'est le bon pour faire quelque chose. Alors, on va un peu pitcher rapidement. Le tome 1 raconte comment Riyad Satouf, enfant blond, adorable, est le fruit de la rencontre à la Sorbonne entre une Bretonne gentille et effacée et un Syrien mal décroci mais brillant élève. De ce couple improbable, voilà, il se retrouve en Libye, dans la Libye de Kadhafi, à un moment super brouillon, mais bouillonnant d'espoir pour les peuples arabes, une première fois, dans les années 80. Le livre couvre une période de 6 ans, tandis que le deuxième tome va se focaliser sur une seule année qui correspond au retour du père dans son village natal, près de Homs, dans la Syrie de Assad père. Le récit est raconté depuis les souvenirs de Riyad Satouf, enfant, complété par quelques informations historiques. Alors le dessin de Satouf, on le voit aussi, c'est un dessin rond, simple, axé sur les personnages, peu de décors. Il a fait un peu d'effort dans le deuxième tome. Des aplats de couleurs franches qu'il a associés à certains territoires. Il y a du bleu pour la France, un espèce de rose pour la Syrie, etc. Des couleurs qu'il a associées comme ça de manière très très simple et qui fonctionnent assez bien. Alors je vais pointer trois particularités de l'arabe du futur. Un, ce qui frappe d'emblée, c'est l'appel que fait Satouf aux sensations. C'est-à-dire tout le temps, il parle des odeurs, des goûts, du toucher qui sont mis en avant, ce qui est assez juste par rapport à l'idée, à l'âge de Satouf, puisqu'on parle d'un gosse qui a entre 2 et quelque chose comme 8 ans. La restitution de l'enfance comme animalité est une des intuitions fortes du bouquin. Ça, c'est pas mal. Alors, l'autre positionnement, c'est celui du déracinement. Satouf tente de faire percevoir l'enfance comme le lieu de toutes les acceptations. Souvenez-vous, on avait parlé de La Favorite de Mathias Lehmann il n'y a pas longtemps, et dans lesquelles on avait ce même phénomène. Quand on est enfant, on bouffe tout comme si c'était normal. Et ici, voilà, ça permet de prendre les mœurs françaises, mais aussi bien les mœurs libyennes chez Kadhafi, comme des données qui sont vécues à la taille des adultes. C'est-à-dire, si l'adulte trouve que c'est bien, si mon père trouve que c'est bon, bah alors c'est bon. Et donc, comme ça, il va traverser tout un ensemble de trucs. Le jugement sur la culture arabe en 2015, après le 11 septembre, après l'État islamique qui supplante la mémoire des révolutions arabes dans les traitements journalistiques. Ce jugement est assez rude. Il est alimenté par une droite qui plus les réfugiés traversent la Méditerranée, plus on se retrouve avec des discours de droite un peu rudes, avec des gens qui sont prêts à les balancer à la flotte, etc. Et donc, même si Satouf dit des horreurs sur le patriarcat, sur le machisme, la corruption, l'arrivisme, l'hypocrisie, la misère, l'illettrisme, le racisme, l'hygiène défaillante, il essaie quand même de placer son personnage entre deux cultures. Et donc particulièrement dans le tome 2 d'ailleurs. Et il réussit presque à trouver une distance par rapport à la France de Mitterrand, les supermarchés et le consumérisme occidental qui se ramène, qu'on est content de mettre des trucs plein le caddie, etc. Et il arrive à montrer quasiment avec autant d'exotisme Palmyre et Auchan. C'était le supermarché dans lequel il va, c'est Euromarché. Donc voilà, et donc même si on sent qu'il se fout un peu de la gueule de son père à travers la manière dont il le décrit, il y a quand même quelque chose qui est assez juste dans la manière. C'est d'ailleurs, à mon avis, la manière qui fait le succès du bouquin, puisque d'un seul coup, on se sent autorisé de suivre ce personnage parce qu'il y a cette manière de produire un déracinement à double sens. Bon, après ça, il montre que son père achète un magnétoscope Betamax alors que c'est les losers de l'histoire de la VHS, enfin par rapport à la VHS, mais bon, voilà. Alors, le troisième positionnement, je vais terminer avec ça, c'est celui sur la violence. Alors, la violence est liée au point précédent. La violence, elle surgit toujours de l'incompréhension des codes, et la violence, c'est toujours ce qui est insensé. Et Satouf a une fascination pour la violence, et il arrive tout à fait à la relier au déracinement, au fait d'être constamment menacé par une culture dont on ne possède pas les codes. Et cet enfant, on le sent constamment en danger. Et donc la joie, c'est vient des moments où on perçoit, où il commence à percevoir où il est, et même quand il ramasse des tapes sur les mains de sa maîtresse d'école, on sent que c'est plus facile si on sait pourquoi on les reçoit. Et donc, cette espèce de message de Satouf, c'est la terreur et la douleur sort toujours de l'arbitraire. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi pas mal. Alors voilà, au bout de ça, on peut quand même dire que Satouf, c'est un passeur plutôt dans le sens, dans le sens où on a besoin en Occident d'avoir des choses qui nous soient dites par rapport à toutes ces cultures. Et c'est, quand on voit le nombre de langues dans lesquelles c'était traduit, c'est de l'allemand, c'est du suédois, c'est du français, bien sûr, de l'italien, de l'espagnol, etc. Donc c'est plutôt, c'est vraiment une forme de réponse à qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à ces gens. Et on n'est pas encore au moment où on va pouvoir une passation dans l'autre sens. En même temps, le colonialisme a tellement été un mode d'imposition de l'Occident aux cultures extérieures à l'Europe, quelle qu'elle soit, qu'on peut se réjouir de voir que maintenant, on a besoin, nous, la trouille au ventre, qu'on nous explique un peu qu'est-ce que ça veut dire le patriarcat tel que conçu dans un petit village près de Homs. Et j'arrête là.
Ok, parfait, Stéphane. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de... À moins que vous ayez en une phrase...
Non, ce qui est sûr, c'est qu'avec le prix aussi qu'il a gagné à Angoulême, ce bouquin est en train de passer d'un statut, en effet, plus intime à quelque chose d'autre. Et là, il faudra suivre l'évolution. Je ne sais pas si c'est une trilogie.
Il y a plus ou moins 4 numéros proposés, je crois.
D'accord. Et là, du 1 au 2, on voit, je pense par rapport au succès en librairie, qu'il se passe quelque chose. Donc, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça.
On y reviendra peut-être dans 2 numéros. On verra. Je continue et je termine les nouveautés en quelques minutes avec donc défi de ma connaissance de Kwon Yeon-deuk. À ton avis, Philippe, qui est plus habitué au nom coréen, est-ce que je dis ça correctement?
Oui, tout à fait. Ça veut dire petite fleur du printemps, je pense, dans le dialecte du sud.
Bref, c'est un auteur coréen qui est traduit pour la première fois en français chez Atrabile. On a remarqué quand même que récemment, Atrabile lorgnait de ce côté-là du globe, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils traduisent des auteurs
récemment,
coréens.
Récemment, depuis des années, il travaille avec Sci Comics et tout ça. Ça fait, ouais, je pense, 10 ans plus ou moins qu'il travaille.
D'accord. On avait parlé de Tsubaki, mais du Parfum des Hommes, je pense, il y a à peine quelques mois. Ben, il faut savoir que ces deux auteurs sont proches et qu'ils ont fondé ensemble un collectif, après avoir quitté Sci Comics justement, un collectif qui s'appelle Salbook, et dans lequel sont parus les 8 récits qui sont compilés ici. Alors on est très loin du récit tragique du Parfum des Hommes, qui nous raconte grosso modo comment on crève du cancer quand on bosse dans les usines Samsung. Là, on est plutôt du côté de l'autobio, avec des thématiques beaucoup plus légères qui sont plutôt du côté de qu'est-ce que c'est être amoureux. Alors, autobio, c'est pas toujours assumé, parce qu'en fait, le personnage principal, c'est évident que c'est toujours le même, mais par contre, il porte pas toujours le même nom. Donc, des fois, c'est son nom d'auteur à lui, Yeong-deok, et des fois, c'est Yeong-soo. Et alors, c'est marrant parce qu'on retrouve dans une de ses histoires ce fameux ami Tsubaki, l'auteur du Parfum des Hommes. Et donc, la grande question qui traverse quasiment l'ensemble des récits, je l'ai dit, c'est qu'est-ce que l'amour ou qu'est-ce qu'être amoureux ? C'est une question qui restera un mystère, évidemment. Et finalement, ces récits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ressassent des tentatives, des actes manqués, des souvenirs du protagoniste, ses ex, ses amours ratés, ses amours de l'université qu'il va recroiser au moment où elle se marie. Le tout dans une société coréenne qui a l'air d'être obsédée par l'argent et le mariage. C'est une constante dans tous les récits.
Les infos qu'on a de manière directe, par ailleurs, confortent ça. Hein. Les Coréens sont obsédés par l'argent et le mariage.
Je n'en fréquente pas beaucoup, je ne peux pas... Et alors, quand l'auteur ne parle pas d'amour, il parle de sa situation financière, d'auteur de manhwa, donc on en parlait tout à l'heure, à l'opposition à l'auteur de manga. Donc c'est quelqu'un qui propose un type de BD moins mainstream que le manga, et à qui on dit toujours « et ça gagne bien », voilà, et qui n'est pas marié, et voilà. Et donc il est un peu considéré comme un marginal, et donc qu'est-ce qu'on a dans ces récits au milieu de ces questionnements autour de l'amour des soirées de beuverie un peu pas très glorieuses. Alors, les récits ne sont pas montrés de manière chronologique. C'est quand même des récits qui ont été écrits sur une période de 10 ans. Donc, on a même un dessin qui bouge pas mal. Alors, c'est marrant parce que le premier récit, je me suis dit « Ah, ça me fait un peu penser aux Simpsons, mais en plus élégant. » Et j'étais rassurée de voir qu'Atrabile, sur son site, confirme que Matt Groening est une influence de cet auteur. Mais bon, c'est beaucoup plus élégant que les Simpsons. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Même s'il a tendance à bouger, il y a juste un récit qui est beaucoup plus comique, comme ça, beaucoup plus lâché, qui est d'ailleurs un dessin qui a été choisi pour la couve. Et alors ça, je trouve ça un peu dommage, parce que même si la scène, le récit est super et la scène qui a été choisie, elle est très chouette, de tout le dessin qu'il a, je trouve que ce dessin-là est tellement moins séduisant, moins riche... Donc, je sais pas, je suis moins convaincue par ce choix-là pour la couve, alors qu'on sait que la couve, c'est quand même un enjeu. Enfin voilà. Bref, donc passer cette couve, le dessin est, moi je le trouve vraiment, il est réaliste sans être clinique, il est fin, il est élégant, expressif. Enfin, moi je suis assez fan. Donc c'est à l'encre noire, hein, on est quand même dans une tradition dessin à la ligne, voilà, traitement pas si, enfin un peu classique quoi, pas non plus, c'est pas Mathias Gullberg. Et donc voilà. Ce que j'ai vachement aimé dans ces récits, c'est que même si voilà, ça décrit un univers un peu potache, l'univers un peu chancelant de ce gars, bah, y a vachement de franchise dans la manière dont il raconte ça. Et il arrive à raconter quelque chose de fin sur la jalousie, les regrets, les malaises, les incompréhensions. C'est des scènes qui sont vraiment belles. Il y a quelque chose sur la solitude aussi qui est hyper touchante. On est dans des gars qui sont un peu attelés à leur téléphone, ça passe par le SMS, ça passe par les mails, tout ce qui n'est pas dit en vrai, on essaye de le dire plus tard via un SMS, enfin, y a toujours quelque chose d'un peu raté, moi je trouvais ça vraiment beau. Et notamment les deux derniers récits qui fonctionnent en fait ensemble, puisqu'on a d'abord une histoire d'un amour un peu foireux, une espèce de désir pas assumé pour une éditrice. Et puis ensuite, on a l'éditrice devient la protagoniste. Donc là, on quitte l'autobiographie. Et elle nous parle de ses parents et du rapport amoureux qu'ont ses parents à un moment où la mère est malade. Et j'ai trouvé ça super, super touchant. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui a vachement de grâce, en fait. Même si ça raconte un quotidien un peu bancal, et ben, je trouve qu'il y a beaucoup de grâce. Voilà. Chaque lecture supplémentaire me confortait dans ce sentiment.
On peut penser un peu à Tominé à certains moments, oui. Le récit des relations amoureuses.
Même stylistiquement, parfois, ça se rapproche.
Et dans Le parfum des hommes, mais on avait aussi dans cette émission, je suis sûr, parler de La mémoire du corps, il y a peut-être 2 ans, et de Wooly et moi encore un peu plus avant. Donc, quoi, on parlait déjà de ça. Il y a quand même souvent cette volonté dans ces bouquins de vivre en marge des codes de cette société coréenne, comme tu le disais, qui a l'air terriblement corsetée. Et voilà, c'est assez intéressant de suivre ça.
Ben c'est, oui, je pense que c'est assez réaliste et c'est un portrait de la société coréenne du point de vue de quelqu'un qui se situe quand même malgré lui en dehors.
Oui, c'est ça qui est intéressant dans tous ces auteurs, c'est qu'un peu comme Chester Brown, dont on parlait tout à l'heure, s'est retrouvé dans les années 90 à essayer de se débattre avec une éducation catholique, etc. On retrouve un peu ce côté vraiment de combat au quotidien par le métier de mangaka, enfin qui n'est pas mangaka ici, mais par le métier de dessinateur, par la marge que ça produit, la situation un peu étrange que ça produit à l'intérieur de la société, une manière de pouvoir se permettre de redéfinir. On pense aussi à Élégie en rouge, qui est un manga qui des années 60 et qui était exactement sur cette même brèche de où se positionner dans une société tellement bétonnée.
Voilà, on va passer peut-être à la capsule de Nicolas. Donc Nicolas nous envoie des capsules de Thaïlande et là c'est le troisième épisode sur le trauma et il nous parle du webcomic Deep Dark Fears de l'auteur américain Frank Kraus et une relecture de Tintin au Tibet. Avec des gros morceaux de Yeti dedans, nous dit Jean.
Si j'ai largement commenté, et de manière assez libre, 2 planches du roman graphique Batman Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean dans les capsules précédentes, j'avais jusqu'ici fait l'impasse sur le rôle de Martha Wayne et de la menace qu'elle lance à son fils encore enfant. Si tu n'arrêtes pas de pleurer et si tu ne te comportes pas en adulte, je t'abandonne ici. La phrase nous renvoie au concept de violence ordinaire faite aux enfants développé par la psychologue suisse Alice Miller. Bien que controversés, ces écrits offrent d'intéressantes pistes sur la souffrance muette de l'enfant, la lecture du dessin d'enfant en thérapie, ou le sapement des sentiments de confiance et de protection exercés inconsciemment par les parents sur leur progéniture. Elle évoque également l'idée d'abréaction, idée contestée par le psychiatre Louis Crock, qui définit l'explicitation du traumatisme par la victime au moyen de gestes et de paroles. Il s'agirait là, pour Alice Miller, d'un langage codé de l'enfant réduit au mutisme, d'un ensemble de symptômes qui ont pour fonction d'exprimer le traumatisme inconscient dans un langage codé, aliénant et incompréhensible, aussi bien pour le sujet lui-même que pour son entourage, d'un langage qui parle de phénomènes que le patient ne peut pour le moment pas encore exprimer autrement. Dans ses formes les plus extrêmes, cette abréaction prendrait l'aspect d'une dépendance aux drogues ou d'automutilation dans un mouvement de répétition d'une situation traumatique antérieure. Le costume de chiroptère porté par Batman, tout comme son automutilation, pourrait ainsi se lire comme deux éléments de ce langage codé, aliénant et incompréhensible. Autre particularité du personnage, sans doute exacerbée par son absence de pouvoir surhumain, Batman s'inflige de manière compulsive un retour aux enfers. Chaque nuit, dans son antre souterrain, il est animé par cet impérieux besoin de revivre son passage par le monde d'Hadès. Pour en revenir au schéma que j'avais présenté le mois passé, peut-on considérer la bande dessinée comme un langage de symptômes du traumatisme psychique, alternant de manière répétée, voire compulsive, cases et gouttières, images et ellipses, présence et moments d'absence, moments de blanc sans pensée, sans idée, sans mots? La bande dessinée pourrait se présenter pour la victime comme ce langage qui parle du phénomène de l'effroi et que le patient ne peut pas encore exprimer autrement. N'étant ni psychologue ni psychiatre, et bien conscient de jongler avec des concepts que je ne maîtrise que très partiellement, je laisserai aux spécialistes de la psyché le soin de se pencher sur la pertinence de la question. Je poursuivrai en citant le romancier Jean-Marie Le Clézio. J'aurais aimé être dessinateur de bande dessinée. C'est ça qui me plaisait vraiment. Parce que dans la bande dessinée, il y a la littérature, les mots, et puis il y a le dessin qui permet d'échapper aux mots chaque fois que vous en avez envie. On pourrait rajouter ici, à chaque fois que vous en avez besoin, que vous ne pouvez l'exprimer autrement. Mais il y a donc aussi la gouttière qui permet d'échapper aux mots et aux images face à l'indicible du trauma. Comme le déclarait Bernard Kringstein en 1962, c'est ce qui se déroule entre les cases qui est si fascinant. Regardez tout le contenu dramatique que personne n'aura jamais l'occasion de voir. Si ce contenu dramatique n'est jamais vu, il est cependant produit par le lecteur, sur base du phénomène de closure, parfois traduit en français par fermeture, ou le néologisme complétion. Il exprime notre tendance à compléter les informations manquantes, dans une image ou un texte, à lever en somme toute ambiguïté. Dans son ouvrage « L'art invisible », Scott McCloud considère que la bande dessinée est complétion, que le lecteur est censé s'inviter à compléter les informations manquantes, bien que généralement suggérées, entre deux cases. Si la bande dessinée permet potentiellement à un auteur de se passer du texte et de l'image lorsqu'il en éprouve le besoin par le biais de l'ellipse, tout en suggérant un contenu dramatique, elle demande donc au lecteur un important travail de participation. Liant texte et image, deux formes d'expression de nature différente, et liant image entre elles en complétant un contenu dramatique invisible, le lecteur est invité à reconstituer une continuité, à mettre en relation et en mouvement des fragments immobiles. Ce processus cognitif de mise en relation et de mise en mouvement peut-il stimuler son équivalent psychique ? Une victime de trauma, par le biais de la bande dessinée, peut-elle reconstituer une continuité et mettre en relation et en mouvement les fragments de sa psyché ? Dans mes entretiens avec Debbie Drexler, qui débuta la bande dessinée à l'âge de 40 ans, ou Myriam Katine, qui commença à l'âge de 63 ans, il semble que le choix spécifique, bien que tardif, de cette forme d'expression pour exprimer leur vécu traumatique soit lié à la dépendance de ces deux processus. Je terminerai cette série de capsules en amenant quelques autres pistes de réflexion sur les rapports entre bande dessinée et trauma psychique. La bande dessinée permet-elle à la victime, par l'entremise du dessin, de cartographier son paysage mental, dont la topographie fut altérée par l'entrée de l'image traumatique? Prend-elle la forme d'un atlas historique capable de ramener la victime ici et maintenant? Dès 1833, dans sa préface à l'histoire de Monsieur Jabot, Rodolphe Töpffer évoquait la nature mixte de ce qui s'appelait alors les histoires en estampes. Cette nature mixte de la bande dessinée, alliant texte et dessin, trouve-t-elle un écho particulier auprès de la victime, qui est à la fois elle-même et autre depuis l'événement traumatique? Sa double nature, qui prend souvent la forme d'un être thérianthrope composite, s'exprime-t-elle de manière plus évidente par l'entremise du dessin? Dans sa thèse de doctorat, La bande dessinée et son double, Jean-Christophe Menu évoquait la bande dessinée comme étant sa langue maternelle. Cette primauté du langage dessiné sur la langue écrite ou parlée a-t-elle une incidence sur le choix de la victime d'exprimer son trauma par le biais de la bande dessinée? L'association du dessin et de l'écrit s'offre-t-elle comme une alternative à la parole, confisquée par l'effroi, le secret de famille ou la menace de l'agresseur? Sur ces interrogations sombres comme le ciel de mousson qui plane sur la Thaïlande, je vous souhaite un été des plus ensoleillés. Sawadikap, les amis.
Oh, vous écoutiez le White Classical Music Ensemble avec un morceau qui s'appelle Pussy Junkie, si ça vous a plu. Ils sont en concert gratuit dans le cadre de la fête de la musique, dimanche 21 juin à 15h dans le parc du Cinquantenaire. Voilà, alors on va passer à la rubrique Grand Papier. Donc il est temps pour vous de regarder vos ordinateurs, d'aller sur grandpapier.org et Maxime va nous déterrer quelques récits.
Oui. Alors le premier dont j'aimerais parler... Il s'appelle « Grand sans-papier ». Et c'est un récit qui a été publié par Grégory Jarry, donc qui est l'éditeur des éditions Fleubelob à Poitiers et qui est aussi auteur, donc avec Autoté des petites histoires des colonies françaises. Et de lui tout seul, pas mal de romans photos comme « Savoir pour qui voter est important ». Donc quelque chose d'assez politique et assez un peu rentre-dedans sur le mode harakiri, les années 70, tout ça. Donc son grand papier, en 24 heures, il a fait un roman photo. Déjà, je trouve que c'est une très très bonne idée, parce qu'il y a quelque chose d'un peu fini tout de suite avec la photo, alors que souvent les récits dessinés pendant les 24 heures, il y a un côté le dessin est vite fait. Et il y a autre chose d'intéressant, donc, c'est que son pitch est très très bon, c'est qu'il se retrouve à Poitiers, et l'idée c'est qu'il y a un centre de détention de sans-papiers en attente d'expulsion du territoire français, qui vient d'ouvrir, et que deux familles de sans-papiers se sont échappées de ce centre. Et donc, Grégory, grâce à sa femme, arrive à les rencontrer et à faire une interview. Voilà, c'est assez bon pitch. Et les acteurs sont très bons, parce que, évidemment, c'est du fake. Je dévoile un peu l'idée, mais c'est un fake. Et il y a des super effets de réel. On sent qu'il a improvisé sur le moment. Et ça fait très bien passer les stéréotypes un peu des personnages qui sont des Roumains, des Serbes. Et le tout est amusant et bien senti, avec plein de dialogues super mordants sur la France, les bourgeois, les Français, ça fait vachement réfléchir. Et je voulais vraiment parler de ce récit parce que Grégory, ça fait 10 ans, je ne sais pas combien de temps, qu'il fait du roman photo, qu'il est vraiment tout seul, qu'il a la tête super dure. Enfin, qu'il n'y a quasiment personne qui fait du roman photo à part lui. Et il dit toujours, le roman photo, c'est trop bien, il faut trop en faire. Et il est super enthousiaste, opiniâtre et encourageant. Et donc, j'aimerais vraiment lui dédicacer ça.
Il y en avait un peu dans Psychopathe pendant tout un temps, dans lesquels il y avait des choses assez drôles. Et puis, il y avait Harakiri qui en a fait pas mal, ouais. Dont beaucoup avec, à la fin, avec des filles à poil et des trucs comme ça. Je m'en souviens particulièrement de Julien Clerc, Alain Souchon, est entouré de filles à poil. Un truc assez étrange. Oui, il faut retrouver ça dans vos collecteurs.
Et Fleubelob, en fait, on a réédité plusieurs des romans photos de Harakiri. Donc, c'est très bien. Ouais, mais ça, c'était déjà il y a un petit peu de temps quand même. Et actuellement, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui se fait. Enfin, en tout cas, des auteurs qui poursuivent ça sur des grands récits. Il y a des petites blagues dans Fluide glacial ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc, Grégory, à ma connaissance, en tout cas, c'est un peu une exception. Et donc, il y a d'ailleurs dans ce récit, en fait, il y a la première page, c'est Thomas Dupuis, donc son acolyte éditeur, qui est pris en photo, en train de faire la gueule, en train de dire « Mais il faut que tu fasses un truc politique, parce qu'il n'y a jamais personne qui fait un truc politique pour les 24 heures. » Et en fait, cette page-là, elle manque, parce que je l'ai regardée aujourd'hui. Il n'y a plus que 23 pages et cette page-là manque. Donc, Grégory, remets-la. Voilà.
Je rappelle juste pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément, quand on parle des 24 heures, c'est un procédé des 24 heures de la bande dessinée où il faut faire 24 pages en 24 heures. On en a souvent parlé, mais bon, on ne sait jamais. Pour les gens qui n'ont pas suivi. Voilà.
Et voilà. Et donc, Thomas, qui était pris en photo au début de Grand Sans Papier, il a posté aussi des récits solo sur Grand Papier, entre autres Au cinéma l'Auditriche, qui est un des récits qui est repris dans son livre Djum Chabada Chouchou, qui vient de sortir aux éditions Fleubelob, et qui est un récit en fait de courtes histoires un peu autobiographiques, où il réfléchit un peu sur les expériences qu'il a eues et qui l'ont formé, sur les rencontres qu'il a fait. Et donc là, dans Au cinéma l'Auditriche, il réfléchit sur son bénévolat, ses débuts de bénévole Auditriche, qui est un cinéma alternatif à Poitiers. Et donc, lui, en tant que jeune bénévole, était très impressionné par les vieux bénévoles. Et il y a eu une scène comme ça, où ils ont tout réinventé la vie d'une personne qui se trouvait mal ce jour-là au cinéma. Et sur le moment, ça lui a paru tout à fait normal. Et ensuite, il s'est dit, mais en fait, ils n'avaient pas le droit de faire autant de suppositions sur sa vie et tout, réinventer la vie. Et il se demande un peu si ce n'est pas une déformation de cinéaste. Et même, on peut dire, lui-même, après, se prend à faire plein de suppositions sur pourquoi ces deux-là s'imaginent des trucs comme ça. Et donc, il rapporte en fait tout à lui, pas dans le mauvais sens, un peu égocentrique, mais plutôt, il ne s'épargne pas, il est toujours en train de chercher comment lui... Enfin, si cette histoire le touche, c'est que lui-même, il fait ces erreurs-là et il essaie de se donner un peu des mises en garde pour le futur, j'ai l'impression. Dans Djum Chabada Chouchou, il y a une histoire comme ça où il se met des petites notes à lui-même pour que le lendemain matin, il se rappelle de ce qu'il a fait la veille. C'est peut-être des petites histoires, c'est comme des petites notes pour lui-même, pour savoir, écoute, et pas ce comportement-là, c'est pas sympa pour les gens. Et il y a aussi une chose qu'il dit, c'est que s'ils avaient dit la même chose avec humour, eh ben, ça serait beaucoup mieux passé. Et c'est un peu ce qu'il fait souvent dans ses histoires, c'est qu'il raconte toujours les choses avec humour, avec un trait qui est... Il y a énormément de textes, énormément d'informations, mais ça passe très bien. lui aussi, il y a quelque chose d'assez original dans ce rapport au texte. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes de texte en voix off. Et ensuite, des tout petits dessins assez burlesques en dessous, qui sont souvent muets, et qui montrent des petites choses, des petites scènes, un peu de dessins animés, burlesques, avec un trait qui fait penser à Harvey Kurtzman, le fondateur de MAD, et très vigoureux. Et donc, je trouve que c'est assez original, cette manière de raconter des histoires. Ça fait un peu penser à du Wolinski, par exemple, ou des choses comme ça, mais avec un trait plus cartoony, beaucoup plus vigoureux, moins... Voilà. Ça me plaît bien. Et le troisième récit dont je voulais parler, c'est Maxi Jack de Étienne Beck. Donc Étienne Beck, c'est un jeune auteur qui a publié un seul livre en bande dessinée, à ma connaissance, c'est Monsieur Pixel à l'employé du mois.
Il y a d'autres récits, mais c'est pas forcément de la bande dessinée.
Ouais, c'est ça. Il y a Petit Poussé aussi. Ouais, et,
Petit Poussé.
Et
Poussé.
Doigt d'homme ou un truc comme ça. Et il y a une adaptation d'un conte russe aussi. Mais là, je l'avoue que j'ai moins lu, et c'est plus censé être des livres pour enfants, mais on retrouve vraiment son univers qui est absurde, très très drôle, et avec plein de digressions, des choses comme ça. Et donc dans Maxi Jack, ça ne fait pas exception. Alors Maxi Jack, qui a deux récits sur grand papier où il y a Maxi Jack, celui dont j'aimerais parler, c'est un livre dont vous êtes le héros, en fait, comme j'avais quand j'étais ado. Et où on retrouve ce héros qui est une espèce d'armoire à glace comme ça, qui est toujours vu de dos sur le devant de la case. Donc c'est très intelligent de mettre un personnage qui prend toute la place sur le devant de la case, comme ça il n'y a pas beaucoup de décor à dessiner. Et effectivement, il arrive juste à placer un arbre à sa droite et encore un peu plus à sa droite un petit mur de briques. Alors la première série des Maxi Jack, c'était pas un livre dont vous êtes le héros, c'était des petits strips comme ça, où il partait toujours de cette situation initiale, donc le personnage à gauche, l'arbre et le mur de briques, et il essayait de tirer vraiment tout ce qu'il pouvait tirer de cet arbre et ce mur de briques, et ça donnait des choses très très drôles, très absurdes, avec vraiment un sens de la rupture, d'amener des références culturelles et tout. Un des premiers trucs, c'est qu'il se retrouve en Tchétchénie. Enfin voilà, rien que le fait de dire, voilà, ce bonhomme, cet arbre et ce mur de briques, c'est la Tchétchénie, ça amenait des choses. Et il fait pas mal de références à ses strips dans le jeu de rôle ensuite. Et donc le jeu de rôle commence très simplement. Maxi Jack s'est fait insulter par le sorcier Gringoire. Il doit venger cette insulte, mais il n'a pas d'arme. Alors il doit chercher une arme, et les trois premières solutions, c'est aller chercher une arme derrière l'arbre, aller chercher une arme derrière le mur de briques, ou avancer tout droit vers l'aventure. Et donc il y a énormément d'impasses dans ce récit, et on se retrouve très très rapidement à mourir, à droite à gauche, pour une raison X ou Y. Il y a énormément de clichés de monde d'heroic fantasy qui sont utilisés. Mais il y a énormément aussi de choses très très surprenantes, et on sent, quasiment dans tout ce que fait Étienne Beck, on sent que la première personne qu'il essaie de surprendre et d'amuser, en fait, c'est lui-même, je pense. Et pour moi, il y a une joie de faire les choses qui est vraiment communicative. Et pour moi, ça se rapproche assez fort de l'amateurisme, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est dans un sens, il aime faire ce qu'il fait, quoi. Il n'est pas du tout dans un truc professionnel, il fait pour le plaisir avant tout, on le sent. Et même, il y a un petit côté amateur comme il scanne ses planches, comme il les poste. Il y a souvent, on voit les retouches des papiers découpés qui sont recollés par-dessus. On voit comment il a fait son feutre et tout, ça a bavé.
Oui, pour faire Monsieur Pixel, moi, j'ai passé un mois à retoucher ce bouquin. Donc, je vois tout à fait ce dont tu veux parler.
Oui,
il y a un côté, il fait partie de ces rares personnes qui ont l'air de faire les choses de manière très désinvolte et qui sont pourtant extrêmement efficaces. Donc, on les envie.
C'est vrai que c'est une combinaison de qualités qui est extrêmement rare. Ouais. Et c'est étonnant comme tout.
Bon, après, j'imagine qu'il bûche. Hein. Il doit bosser comme tout le monde, surtout
qu'il rebûche, parce que c'est quelqu'un qu'on voudrait vraiment voir revenir dans le boulot. Et il faut lui dire, il faut lui crier encore et encore, si vous le voyez dans la rue, nom de Dieu, fait de la bande dessinée.
Ouais. On a fait le tour des récits, alors. D'accord, super. Eh bien voilà, donc c'était des récits que vous pouvez aller lire sur grandpapier.org. Alors on va s'écouter un petit peu de musique, on va écouter Facteur Cheval, oui c'est ça, hein. Facteur Cheval avec un morceau qui s'appelle Les Câbles.
Voilà.
Ah, retour à l'antenne. Voilà, et donc maintenant on va passer l'antenne à Jean, parce que Jean va nous présenter l'interview que nous avons fait, enfin que Jean a fait tout seul, de Claire Brault à Angoulême. J'en profite pour vous dire bye bye, rendez-vous à la prochaine émission qui sera un jour au mois de septembre. On vous redira la date.
Ce sera le 23 septembre.
Voilà, parfait.
Merci Johanna. Et oui, fin de l'émission Grand Papier. Alors, on termine avec cette interview de Claire Beau, donc Claire Bro, réalisée à Angoulême. C'était il y a 5 mois. Alors, pour la resituer, eh bien, c'est une auteure de bande dessinée qui a donc, comme Johanna vous l'a dit, sorti 2 bouquins à l'association Mambo en 2010 et Alma en 2014. 2 livres qui ont été chroniqués ici même. Alors, ce qui avait marqué nos chroniqueurs à l'époque, c'était une grande liberté. Liberté à la fois dans le dessin et à la fois dans le récit, puisqu'il y a une espèce, quand on parcourt ces bouquins, eh bien, il y a une espèce de ravissement au dessin avec des planches extrêmement fluides. Et au niveau du récit, eh bien, déjà dans Mambo, mais encore plus dans Alma, qui est un bouquin plus important, on part dans des sous-récits assez délirants avec des personnages hauts en couleur. Alors, dans les 2 bouquins, un des points communs, c'est que les personnages sont des personnages féminins. Dans Mambo, c'est Pétula Pete, un personnage qui, malheureusement, est maudite. La malédiction, c'est que tous les garçons qu'elle aime se transforment en patates, ce qui va lui jouer des vilains tours. Et dans Alma, eh bien, on suit les aventures d'une dirigeante d'une exploitation agricole qui voit sa ferme menacée par des promoteurs immobilier. Voilà. En janvier à Angoulême, on avait rencontré Claire Bro, on l'avait enlevé de sa table dédicace au stand de l'association pour un entretien qui dure 22 minutes. Et on s'écoute ça tout de suite. Radio Grand Papier, nous sommes au 42e Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Nous sommes le samedi 31 janvier et nous allons interviewer Claire Bro qui a sorti 2 albums à l'association dont on vous a parlé sur Radio Grand Papier. Il s'agit de Mambo et Alma. Bonjour Claire Bro.
Bonjour Grand Papier. La Belgique, pardon même.
Alors, on va commencer tout de suite avec une question un peu classique, c'est que avant de devenir dessinatrice, on imagine que tu es d'abord une lectrice de bande dessinée. Et je voulais savoir quels étaient les auteurs ou les personnages qui t'ont marqué dans ton enfance et dans ton adolescence.
Les personnages en bande dessinée ? Tous ceux qui étaient dans la maison de mes parents, les grands classiques, Adèle Blanc-Sec, Corto Maltès, même Tintin, enfin tous en fait. Mais c'était plutôt des héros de littérature aussi, tout ça confondu. Et puis, il n'y a pas vraiment de figure particulière de la BD qui m'ont inspiré. Voilà.
Et tu avais plutôt des auteurs, des dessinateurs favoris ?
Ceux qu'il y avait chez moi, que je n'ai pas arrêté de lire, relire, mais les grands classiques qui sont sortis à cette époque, les Bourgeons, les Tardy, les Pratt, Tintin et compagnie. Mais voilà, c'est tout.
À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, ça c'est le boulot que j'ai envie de faire ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est venu progressivement ? Ou c'est au moment, après avoir terminé le lycée, que tu t'es demandé ce qu'il fallait faire et tu t'es dirigé vers cette voie-là ? Ou bien tu avais une autre idée ?
Non, en fait, j'ai déjà toujours dessiné. J'hésitais pas, mais je voulais aussi faire de la musique classique, j'en faisais un peu, alors je voulais dans des orchestres, et aussi la biologie, les animaux, etc. Et le dessin aussi, et en fait je pense que je suis toujours intéressée par ces 3 choses. Et en fait non, la bande dessinée j'en ai à la fois toujours un peu fait, mais sans avoir jamais vraiment décidé d'en faire. C'est vraiment qu'une fois sortie de... En fait non, c'est qu'en fait je suis arrivée à Paris bien longtemps... 2 ans après mes études, et il n'y avait pas de place pour travailler, juste une table, alors la BD c'était un peu le plus évident. Et puis quand même, j'avais toujours raconté des histoires avec de l'écriture et du dessin, donc ça découlait un peu. Voilà, il n'y a pas vraiment un moment où j'ai décidé d'en faire. Après, quand la première BD est sortie, ça m'a donné envie de continuer. Voilà.
Alors quand on lit tes récits, donc, notamment Mambo et Alma, surtout Alma, on se demande un petit peu comment est-ce que tu travailles au niveau du récit, comment est-ce qu'ils sont construits ces récits. Parce qu'en fait, typiquement Alma, il y a une trame générale et puis après il y a plein de sous-récits où par exemple on passe à un personnage, on passe à la fille du personnage principal où il y a une espèce de parenthèse, on va dire, puis on revient à l'action principale. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que avant de commencer un bouquin, est-ce que tu as une idée globale, tu as un grand papier de 4 mètres sur 4 où tu sais exactement tout ce que tu vas faire, ou bien plutôt c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure?
En fait, j'ai tout un tas d'idées de scènes. Par exemple, la vie d'Anton, c'est quelque chose que je voulais raconter, son arrivée en ville, etc. Si vous avez lu le livre, sinon ça va beaucoup vous parler. Les militaires aussi, Christophe Colomb aussi, c'est quelque chose que j'avais lu et sur lequel je voulais absolument démarrer une histoire. Donc en fait, j'ai un peu toutes ces scènes que j'ai réellement envie de faire mettre en place, et ensuite je tente un peu de les relier par une histoire plus générale. Donc il y a ces scènes qui sont déjà un peu prêtes, et j'aime aussi que l'histoire s'écrive au fur et à mesure que je vais la construire. Après, ça a aussi ses limites que je sens un peu dans Alma, parce que scénaristiquement, parfois, je trouve qu'on aurait pu s'y retrouver mieux. Mais pour moi, c'est un peu une expérimentation aussi du scénario, à savoir en fait comment raconter une histoire. Et j'aime bien ces idées de tout à coup dresser le portrait ou même la vie entière d'un personnage sur lequel on tombe, puis revenir à la narration principale, ou alors raconter le rêve que vient de faire quelqu'un, et alors là on part dans son rêve, ou alors raconter un fait et ensuite revenir à cette histoire comme si tout ça était en fait une seule et même histoire. Mais voilà, en fait j'aimerais dans les prochains livres aussi un peu naviguer entre ces... Voilà, enfin, de cette façon, pour essayer de raconter une histoire du... Enfin, je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse, de comment la raconter, pas seulement la raconter de façon un peu classique avec un début, le milieu, la fin, mais trouver en fait tous ces apports et la meilleure façon de les raconter au lecteur, pour vraiment qu'on ne perde jamais le fil, mais en même temps se permettre de pouvoir aller dans du passé, dans du futur, dans des souvenirs, dans des pensées, dans des désirs, tout en restant... voilà.
Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais on a parfois l'impression que, quand on lit Alma, qu'il y a des pages où, en fait, tu commences à dessiner, et puis c'est comme s'il y a un espèce de plaisir du dessin qui s'installe, et que tu continues la séquence de manière tout à fait automatique, parce que c'est quelque chose qui te plaît. Et je pense particulièrement à deux scènes. C'est l'apparition de la petite buffleuse, la petite bufflette.
Oui, je ne sais pas comment on dit... on dit une génisse pour quand c'est pas des buffles, mais les buffles, je crois, oui, c'est
buffles,
ça.
La petite buffles, donc, qui apparaît et qui reçoit à la fin de la séquence un collier de fleurs, ou bien la séquence où Gisèle se lave, en fait, où voilà, le personnage, c'est deux planches. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se fonctionne? Tu te laisses aller au plaisir de dessiner ou pas vraiment?
Bah alors, d'une, je me laisse aller au plaisir de dessiner, mais en fait, c'est marrant parce que tu cites deux scènes qui, en fait, sont des choses que j'ai vues. Par exemple, la scène avec la petite buffelesse, c'est un souvenir. J'étais à un mariage en Roumanie, et je me suis levée le lendemain du mariage, et je suis descendue dans le village, et en fait, il y avait un homme qui était là avec son petit veau. Et c'était un homme, bon, il était très beau, et en fait, il a joué avec son veau. Alors, il était très viril aussi, et très... avec sa... Voilà, il avait un côté très, on va dire, l'incarnation de l'homme. Bon, c'est un peu classe, enfin, ça veut un peu rien dire, mais... Et en fait, il a joué avec son petit veau pendant des heures, et c'était très beau, en fait. Enfin, moi, ça m'a... Enfin, j'ai trouvé ça très beau. Du coup, c'est un peu ça que j'ai envie de restituer. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai fait beaucoup de dessins. Et comme je pense que j'avais vu ça et que je l'avais retenu, les dessins, du coup, cherchaient à raconter vraiment, en fait, ce que j'avais perçu de cette scène et que je pense que j'essayais de restituer. Et pour l'autre scène, c'est pareil, c'est ces gestes où Gisèle se lave, c'est des gestes que je voyais d'hommes qui souvent font leur toilette, alors pas en France, on ne les voit pas faire leur toilette en public, mais à l'étranger, ça arrive souvent dans les pays où il fait un peu chaud. Et en fait, c'est dans ces gestuels, quelque chose, bah, pareil un peu, ces espèces de gestes que je trouve d'autant plus pour un homme, je sais pas pourquoi, très fière, très noble, j'en sais rien. Enfin, et autant pour le génisse que pour Gisèle Kislav, c'était un peu le même. Donc voilà, donc à la fois je me suis laissée emporter par ces dessins, mais parce que je pense aussi que j'étais nourrie de ces souvenirs qui m'ont... Enfin, que j'ai gardé vraiment en mémoire, quoi. Et je sais pas si j'aurais inventé... Enfin, si j'aurais fait autant de dessins pour quelque chose que j'aurais inventé. Ou... Mais peut-être que si, parce que c'est... Voilà. Mais c'est marrant que tu aies cité ces deux scènes, parce que justement, c'est des souvenirs, quoi.
Alors, il y a quelque chose qui revient dans les deux albums. Ça aussi, c'est ces deux scènes que j'ai mis en parallèle. Au départ, dans Mambo, il y a le personnage de Biflon.
Biflon,
qui est un contrôleur des contributions. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du récit, quand il enlève ses lunettes, il a un regard magnifique. Et les autres personnages remarquent ça. Mais par contre, donc, lui essaie de s'en rendre compte. Donc il enlève ses lunettes face au miroir. Mais lui, comme il est complètement myope et qu'il ne voit rien sans ses lunettes, il ne voit pas qu'il a un regard magnifique. Et première scène de miroir, deuxième scène de miroir, c'est au début d'Alma, où là, il y a... Il y a en fait ce chef indien qui reçoit comme cadeau un miroir des gens qui viennent de l'ancien monde en bateau. Et alors là, lui, par contre, pour la première fois qu'il se voit, en fait, il s'aperçoit qu'il est laid. Alors là, c'est quand même assez frappant, cette histoire de miroir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus ou c'est pas quelque chose de psychanalytique, la façon de se voir ou la façon dont les autres vous voient. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais jamais vraiment fait le rapprochement, mais je saurais pas vraiment dire, mais effectivement, moi, j'y vois vraiment quelque chose parce que cette scène du roi qui se voit dans un miroir, c'est une vraie légende indienne de pourquoi. Alors en fait, c'est pas Colombe qu'on a accueilli, c'est Cortés. Enfin bref, mais c'est vraiment un miroir qui a été envoyé au roi. Il s'est vu dedans, il s'est vu laid, et il a dit je peux pas vous gouverner, vous êtes trop beau, et moi je suis trop. Donc c'est une vraie histoire. Et en fait, c'est vrai, quand je l'ai lu, cette histoire de miroir, je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin, je crois pas avoir perçu ce qu'elle pouvait signifier. Mais en tout cas, elle me plaisait et ça fait très longtemps que je l'ai lu et ça fait très longtemps que j'avais envie d'en parler. Et oui, je sais pas trop comment dire, mais je pense que ça parle un peu de soi. Est-ce que c'est qu'une fois qu'on a vu comment on était et qu'on se juge, les choses sont faussées, le jeu est faussé? Est-ce que c'est qu'à trop y regarder de près, effectivement, si on se regarde, enfin l'image qu'on se renvoie. Oui, c'est ça, en fait, je saurais pas en fait vraiment dire, mais c'est sûr qu'il y a sûrement un truc qui tourne autour de ça. Et même pour Biflon aussi, en fait, c'est arrivé un peu par hasard qu'il y ait ce coup des yeux, en fait, qu'il n'arrive pas à se voir. Et en fait, à partir du moment où il y a eu ça, et ben, ça a légitimé tout mon récit. Parce qu'en fait, avant cette scène, je naviguais un peu en eau un peu tumultueuse avec mon récit. J'étais pas tout à fait certaine. Et quand il y a eu cette scène, c'était plié pour moi. Maintenant, je savais très bien où ça allait. Enfin, c'est ça qui est marrant, quand même. Et l'autre part aussi de ce... Et le livre d'après part sur ce récit. Mais après, voilà, le côté psychanalytique, je ne saurais pas, mais toujours est-il que j'ai eu envie de les raconter.
Alors souvent, quand on évoque ton travail, on parle de musicalité et de rythme. Et je voulais savoir, quelle place est-ce que la musique prend dans ta vie ?
Et je n'en fais pas, j'en écoute finalement très peu, mais j'en ai fait, je faisais la flûte traversière étant enfant, longtemps, et en fait, j'ai joué un petit peu dans des orchestres, mais dans le village à côté, dans la fanfare, donc on ne jouait pas non plus des merveilles, parce que c'était quand même les musiques de carnaval françaises, on imagine un peu ce que ça donne, mais parfois on jouait quelques morceaux assez brillants, et ça m'a émue vraiment profondément. Enfin, ça m'émouvait beaucoup.
Et oui, parce qu'à un moment, le personnage dans Mambo, le personnage de Pitula Pete, en fait, veut séduire un homme. Et pour le faire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de mettre en scène une comédie musicale, de tourner un film dans le travail où elle est, et de tourner un film d'une comédie musicale. Alors, est-ce qu'à travers le personnage, toi, tu aimerais bien aussi mettre en scène une comédie musicale et déguiser des gens et les faire chanter et concevoir un décor ?
Peut-être à un moment, oui, mais en fait, je crois que c'est pas tant la musique que le fait de vraiment être tombé amoureux de quelqu'un et de vouloir lui montrer, lui donner à voir quelque chose de magnifique, ou de lui promettre en tout cas une vie au-dessus de tout, et qui est en fait aussi son problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de vie au-dessus de tout. Donc c'était aussi un peu parler de ce problème de l'amour où ça la paralyse, en fait, de ne pas pouvoir lui donner une vie au-dessus de tout. Qui est du coup cette espèce de désir de comédie musicale. Et en même temps, oui, c'était plus le désert de comédie musicale aussi, c'était plus. Elle arrive dans une entreprise et en fait, elle ne peut pas, elle ne veut pas, en fait, fonctionner là-dedans. Et en fait, elle fait tout imploser aussi. C'était, je crois, plus au sein. Ça regarde peut-être plus l'entreprise finalement que dans le désir de tout faire imploser parce qu'elle ne désire pas que ça fonctionne comme ça. Voilà, c'était plus lié à ça que réellement à la musique et à l'amour de la musique, etc.
Alors, il y a aussi quelque chose d'autre qui est très frappant quand on lit les deux albums qui sont parus à l'association, c'est que tu adores dessiner les animaux. Donc, on voit des pélicans, on voit des petits chats en mauvais état. Hein. Le premier, il a une conjonctivite dans Mambo, le deuxième, normalement, il est en mauvais état. Alors, ce goût du dessin pour les animaux, ça vient d'où ?
Ben, en fait, je suis née dans une ferme et il y en avait partout. Et j'adorais, j'adorais, c'est un peu court, mais je crois même à un moment donné que j'ai dû avoir plus d'amis animaux que d'amis dans mon bled, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, c'est une question qui m'intéresse énormément et je crois que j'ai envie de même d'en parler beaucoup plus dans mes prochains albums. Ça va peut-être être difficile à dire comme ça de façon un peu sérieuse, mais ce rapport entre l'homme et l'animal, en fait, m'intéresse énormément parce que j'ai l'impression qu'enfant, en fait, on ne fait pas tellement de distinction entre quand on est un homme ou un animal et du coup, il s'installe quelque chose, un rapport qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est très 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 riche et je le trouve très vaste. Enfin, ça ouvre un univers que je trouve très vaste et très, en plus de ça, très doux et très, très tendre et très... Enfin, je sais pas, ça m'intéresse parce que plus j'avance dans la vie et en fait, ça me revient en permanence. Et même d'ailleurs, c'est marrant, je vais dans des endroits et je croise des vieux qui me disent vous devez travailler là-dessus. Alors qu'ils me connaissent pas, ils me disent vous devez... travailler sur les animaux par exemple alors que je les ai jamais rencontrés et ils me voient et ils me disent ça et voilà et en fait j'ai vraiment envie de travailler autour de cette question. Après je sais pas ce que je vais en faire mais quelque chose me turlupine en fait dans ce rapport homme-animal d'autant que quand on l'a pas on ne le comprend pas, or quand on a une proximité avec les animaux on comprendrait de quoi je veux parler mais bon bref je sais pas vraiment comment l'expliquer. En tout cas oui je suis très intéressée.
Alors il y a aussi quelque chose qui est assez marrant, c'est que quand on prend un récit comme Alma, mais quelque part ça se passe au niveau géographique, au niveau temporel, on sait pas trop où ça se passe. C'est un espèce de monde, on croise des militaires, donc on croise le personnage principal qui vit dans un endroit un peu idyllique comme ça. Et par contre, au fur et à mesure du récit, en fait, on voit des éléments qui sont très contemporains et très précis. Donc, typiquement, à un moment, un personnage a des lunettes qui filment. Et la fin du récit, en fait, quand ce personnage débarque en hélicoptère, il veut faire un espèce de centre de vacances écologique où il y a tous des trucs à thème écologique. Et là, je me demandais, tiens, est-ce que de temps à autre, tu, dans tes lectures, dans ce que tu vois, tu croises un thème qui t'intéresse, tu le notes dans une espèce de carnet à idées et tu te dis, tiens, peut-être que je vais réutiliser ça. Et après, quand tu es en train de bosser sur un récit, tu repenses à ça ou comment est-ce que ces éléments surgissent soudain dans tes histoires?
En fait, c'est, je crois, le mélange de plein de choses vécues ces 2-3 dernières années et aussi des souvenirs plus anciens. Par exemple, je pourrais vraiment lister que l'arrivée en ville d'Anton, moi, c'est aussi mon arrivée en ville avec une espèce de frayeur comme ça. L'île attaquée par des militaires, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec... c'est très inspiré, en fait, je crois, de... quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec une reporter sur le Sri Lanka, en fait, où elle me parlait souvent, elle était tombée amoureuse de cet endroit sur lequel elle avait enquêté sur toutes les guerres qu'il y avait eu, et on sentait, elle parlait toujours de cette île avec un amour et tout, enfin avec énormément d'amour. Et donc il y a ça. Quand tu disais l'homme qui veut faire un parc, en fait, c'est tout à fait quelque chose c'est un sujet qui me. Pose question, j'aurais peut-être un peu de mal à expliquer, mais en fait, il se trouve que il y a une espèce de comité, alors c'est des Britanniques, je crois, qui justement investissent, qui ont créé une espèce de truc qui s'appelle Rewild Europe, et en fait, c'est des espèces d'investisseurs, en fait, qui investissent dans des territoires en Europe pour en faire justement justement des espèces de zones sans personne dedans et avec que des animaux. Limite, on va réintroduire des grands animaux, des grands prédateurs. Mais ça sous-entend en fait qu'il n'y a plus d'humains à l'intérieur, et ce soit juste des espèces de parcs. Et en fait, ce truc m'a intriguée parce que, à la fois, je pourrais me dire, moi qui aime tant les animaux, ah, c'est génial. Et en fait, quelque chose me dérange. Et en fait, en faisant quelques recherches, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est une pensée bien particulière que de mettre d'un côté les animaux et d'un côté les hommes, et que les uns se côtoient comme ça seulement pour des vacances ou seulement pour un tour en vélo ou pour comment on dit, une excursion dans la jungle sauvage, avec ce sauvage d'un côté et ce trait moderne de l'autre. Et je sais pas encore vraiment pourquoi ça me dérange, mais en tout cas ça me pose question parce que j'y vois quelque chose qui est en plus très actuel et qui m'inquiète un peu parce que, et justement, dans Alma, les hommes, j'ai mis des hommes partout, des animaux partout, parce que les hommes vivent avec les animaux. Par exemple, quand on voit Gisèle caresser un pélican, il le fait avec beaucoup d'amour, comme avec la petite Jenis, et le touriste s'empresse de le prendre en photo comme si à la fois on voyait plus ça, et, alors que pour Gisèle c'est un geste tout fait normal. Et en fait, je pense que d'avoir peut-être été dans des endroits où j'ai vu qu'en fait les hommes avec les animaux avaient ce rapport, je sais pas, c'est un mélange de tout ça, donc je sais pas si c'est très clair. En tout cas, tout ça pour dire que oui, c'est des références de choses que j'ai lues, par exemple ces hommes britanniques qui sont en plus souvent des grands banquiers, des grands avocats, etc., qui s'intéressent de près à la faune extrêmement sauvage, mais avec, comme ça, c'est toujours un peu cette espèce du... Je sais pas, c'est un esprit bien particulier. Ça, c'est des choses que j'ai lues et qui m'intriguent. Donc, c'est vraiment des choses qui se passent actuellement. Le gars avec ses lunettes qui va filmer et qui devient militaire pour fuir son pays parce qu'il peut pas partir et il veut partir. Pour moi, c'est aussi très actuel parce que j'entends beaucoup de jeunes comme ça qui peuvent pas partir de leur pays parce qu'ils n'ont pas le droit de voyager. Du coup, qui partent par tous les moyens, par exemple en s'inscrivant à l'armée. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est voir le monde. Donc, et en même temps, c'est des gens qui savent très bien servir d'Internet, qui sont très avec l'informatique. Et aussi cette espèce de monde encore ancien où effectivement on a des gens qui vivent avec des animaux que l'armée prend, dont elle prend les territoires. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est le monde de maintenant. Et que toutes ces espèces de forces en fait sont en train de se... Enfin, voilà, ça parle un peu de tout ça, entre les désirs de chacun, le... Bon, voilà, c'est... Enfin, c'est pas très bien expliqué, mais bon.
Non, ça, c'est parfait. Une dernière question, alors. C'est la question classique de... Alma est sortie en 2014, est sortie l'année passée.
Ouais, c'est ça.
Et donc, voilà, maintenant... C'est quoi le futur? Sur quoi est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as des projets en particulier?
Eh bien, en BD, je parlais que j'étais intéressée pour faire vraiment quelque chose sur les animaux. Et du coup, la semaine dernière, je me suis dit, allez, ça y est, je vais faire quelque chose d'envergure. Et je voulais faire une série entière qui me prenne toute la vie sur ce sujet. En me disant, comme ça, en plus, j'ai des prétextes pour aller n'importe où je veux, rencontrer qui je veux. Donc voilà, je ne sais pas. Là, c'est que des paroles en l'air, mais voilà. Et sinon, un projet qui est en attente de film animé, documentaire sur cette île dont je vous parlais au Sri Lanka. Ça, c'est en cours. Et puis, en fait, je crois que j'aimerais aussi continuer avec ces personnages qui sont déjà dans Mambo et dans Alma. Enfin, dans Alma, de reprendre un des personnages et en fait de... d'écrire toute sa correspondance. Donc en fait, j'aimerais... Et je me dis peut-être que quand j'aurai 70 ans, j'aurai 40 bouquins avec tous ces personnages qui en fait se déplacent d'une zone géographique à l'autre qu'on a déjà vu dans le premier. Et peut-être que... Et puis d'investir le récit autrement. Là, par exemple, ce serait des correspondances, donc on n'aurait que ces lettres, ou alors ce serait... Je ne sais pas encore. Mais du coup, voilà. Mais rien n'est fait, donc pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ok, super. Ben, merci beaucoup et bonne continuation.
Ben, merci beaucoup. Hein.
Thank you.
Thank you.